بسم الله الرحمن الرحيم. cours du 18 juillet 2006 de Cheikh Chalabi حفظه الله. sujet حكم أصولي.
Un conseiller, c'est une sunna, ça s'appelle. Ça s'appelle nafila, surérogatoire. Ce n'est pas obligé. Non, surérogatoire. Surérogatoire. Je ne sais pas, je croyais surérogatoire. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de le faire. Je parle de wajib. Non, le wajib se divise en deux. Je ne suis pas encore allé là-bas. Non, je reviendrai à ça, Inch'Allah ta'ala. Je reviendrai à ça, Inch'Allah ta'ala. Je disais deuxièmement, ça s'appelle ce qui n'est pas obligé, c'est seulement conseillé. C'est seulement conseillé. Je donne un exemple. Par exemple, faire jeûner le jeudi et le lundi. C'est obligatoire de faire cela? Ce n'est pas obligatoire. C'est conseillé. Non, c'est conseillé. C'est sunna. C'est nafila. Ce n'est pas obligé. C'est seulement conseillé. Par exemple, jeûner par exemple le Ashura, faire le jeûne le Ashura, Tasua, le 9e jour aussi. Ce sont des choses quoi, ils sont seulement conseillés, ça s'appelle seulement mendoub. Ce n'est pas obligé. Le premier on avait dit, on avait parlé de l'obligé, du fard, maintenant on parle seulement du surérogatoire. Naam, surérogatoire, yani, c'est seulement nafila. Tu veux faire, tu veux pas faire. Ensuite, on descend un peu, le troisième, c'est le permis. Seulement permis. Ce n'est ni conseillé, ni rien, c'est seulement permis. Ça s'appelle en arabe, ils disent le moubah. Moubah, c'est seulement permis. Je donne un exemple, manger des oranges. C'est seulement permis. Personne, là, je ne m'a pas dit manger des oranges, le prophète m'a pas dit manger des oranges, sallallahu alayhi wa sallam. C'est permis, je veux manger, je veux ne pas manger. Grimper un arbre. C'est permis. Dormir, manger, tout cela, c'est des choses permises. Ça s'appelle le permis, ça s'appelle en cette matière, ça a bien sûr un mot technique, ça s'appelle le moubah. Moubah, ça veut dire l'azawil l'a permis. Ensuite, quatrièmement, c'est le makruh. Makruh, ça peut être le déconseillé. Makruh. Yani, Allah azawil t'a demandé de ne pas le faire. Mais il n'a pas insisté, pas avec insistance. Le détestable. Non. Allah Azza wa Jal t'a demandé de ne pas le faire, mais yani, sans insister. Les ulama donnent par exemple, je donne beaucoup d'exemples, moi maintenant j'ai deux exemples par exemple en ma tête. Par exemple, pour l'homme quand il fait la prière, et il laisse sa tête découverte. Il ne met pas quelque chose sur sa tête. Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah dit, sa prière est détestable, makruh. Ce n'est pas haram, c'est seulement makruh. C'est-à-dire que on t'a demandé de ne pas faire cela, mais on n'a pas insisté. Ça veut dire, si tu fais, tu fais. Mais on t'a demandé de ne pas le faire, yani, si tu peux ne pas le faire, ou là tu veux aussi ne pas le faire. Par exemple, donner quelque chose, un deuxième exemple, donner quelque chose avec la main droite. Pardon, avec la main gauche. Donner à quelqu'un un livre ou un stylo, une orange avec la main gauche. Ça, c'est détestable, c'est makruh. Prendre avec la main gauche. Prendre quelque chose, quelqu'un te donne une chose, tu la prends avec la main gauche. C'est détestable. C'est makruh. Ce n'est pas haram. Manger avec la main gauche, c'est haram. Boire avec la main gauche, c'est haram. Et pourtant, les quatre verbes sont venus dans le même hadith. Le même hadith a dit, si tu manges, mange avec la droite, car le diable mange avec la gauche. Si tu bois, bois avec la droite, c'est le diable qui boit avec la gauche. Si tu donnes quelque chose, donne avec la main droite, c'est le diable qui donne avec la gauche. Si tu prends, prends avec la main droite, c'est le diable qui prend avec la main gauche. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire la différence? Pourtant, les quatre verbes sont venus dans le même hadith, les quatre verbes. Pourquoi? Lorsqu'on donne et on prend, on dit c'est seulement détestable. Et lorsqu'on mange et on boit, on dit c'est haram. Et pourtant, les quatre verbes sont venus dans le même hadith. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu donnes et tu prends, tu t'es fait ressembler au diable. C'est le diable qui donne et qui prend avec la gauche. Et quand tu manges et tu bois, tu t'es aussi ressemblé, tu t'es fait ressembler au diable. C'est lui qui boit et qui mange avec la gauche. Mais quand tu donnes et tu prends, le maximum de ce que tu as fait, tu l'as ressemblé. Voilà la faute. Tu as ressemblé au shaitan. Shaitan, il ne faut pas le ressembler. C'est un ennemi. Mais quand tu bois et tu manges avec la gauche, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'aides à manger avec toi. Parce qu'il mange avec toi quand tu manges avec la main gauche et il boit avec toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu fortifies. Tu l'aides à le fortifier. Et c'est qui? C'est l'ennemi d'Allah et notre ennemi, notre plus grand ennemi. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna shaitan lakum adou. Le diable, c'est votre ennemi. Inna shaitan lakum adou. Fattakhidouhu adouan. Prenez-le comme ennemi. Donc, quand tu donnes à un ennemi quelque chose, ou tu lui prends quelque chose, c'est pas comme tu lui donnes à boire, tu lui donnes à manger. Tous, on a un diable avec nous. Il est en train de nous guetter. Dès que tu bois avec la gauche ou la droite, il est avec toi. Il prend le verre avec toi et il boit. Il est avec toi en train de manger. Dès que tu fais le rapport avec ta femme, tu dis pas Bismillah, on jannibna shaitan, on jannib shaitan malazakhna, il fait le rapport avec toi, avec la femme. Ensuite, ils seront deux à être qui? À être shurka. Comment on dit shurka en français? Ils sont deux à être associés. Ils vont être associés en cet enfant. Parce que l'homme a fait, le shaitan a fait aussi. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Pour ceux qui ne donnent pas beaucoup d'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà un dars pour eux. Voilà un dars pour celui qui s'approche de la femme sans dire bismillah, sans faire le doua. Ensuite, il y a cinquièmement, il y a le haram. Le haram, c'est le, je sais pas comment on dit en français, le haram, ça veut dire, il ne faut pas le faire le haram. Alors. Il ne faut pas le faire, c'est haram, c'est illicite. Barakallahu, illicite. Il ne faut pas faire le haram, c'est illicite. Je répète parce que je veux expliquer des choses. Je répète parce que je veux expliquer des choses. Allah Azza wa Jal, toujours. Ou bien, je vais diviser en deux grandes choses. Le Hukm Hadal Usuli, je le divise en deux grandes choses. Allah Azza wa Jal, quand je dis Allah Azza wa Jal, ça veut dire son prophète aussi. Allah Azza wa Jal, ou bien, dans tout le Coran et dans toutes les sunnahs, dans toute la sunna et les hadiths. Ou bien il te demande de faire une chose, ou bien de ne pas faire une chose et t'éloigner d'elle, ou bien ils te font choisir. Suivez bien ce raisonnement, il est très logique et simple. Inch'Allah ta'ala, ensuite je vous enlève le point rouge et vous allez me le dire comme ça, je vais l'écouter dans le micro, je vois si vous avez compris. Allah Azza wa Jalla, son prophète, ou bien ils vont te dire fais cette chose, ou bien ne la fais pas, ou bien choisis, tu es libre. S'il te dit fais une chose, ou bien il insiste pour que tu la fasses, ou bien il n'insiste pas. Ou bien il te dit fais-la avec insistance, ou bien il te dit ne la fais pas, et ne fais-la, mais sans insistance. Et quand il te dit ne fais pas une chose, ou bien il te dit ne la fais pas, il insiste, ou bien il te dit ne la fais pas sans insister. Ou bien il se fait choisir entre faire et ne pas faire. Donc, quand il te dit de faire une chose avec insistance, ça s'appelle l'wajib, l'obligé. L'obligé. Quand il te dit de ne pas faire la chose, pardon, de faire la chose et sans insistance, il n'insiste pas. C'est seulement le mendoub, c'est seulement le deuxième, c'est un nafila, c'est sunnah seulement. Sunnah. Maintenant, quand il te dit de ne pas faire une chose, il te dit ne la fais pas, mais il insiste, ça s'appelle haram, illicite. Mais s'il te dit ne la fais pas, mais il n'insiste pas, ça s'appelle seulement détestable. Et maintenant, s'il te dit tu es libre, fais ou ne fais pas, ça s'appelle mubah, permis. Je répète, inshallah ta'ala, pour ceux qui n'ont pas compris. Allah Azza wa Jal, ou bien il te dit fais, ou bien il te dit ne fais pas. S'il te dit fais avec insistance, ça s'appelle l'obligatoire. S'il te dit fais, il n'insiste pas, ça s'appelle seulement, je ne sais pas comment je l'ai appelé en français, ça s'appelle seulement le recommandé. C'est recommandé, c'est tout. Maintenant, au contraire, s'il te dit ne fais pas avec insistance, ça veut dire c'est haram, attention, c'est illicite. Si tu dis ne fais pas sans insister, ça s'appelle seulement makruh, yani c'est déconseillé. Cinquièmement, qu'est-ce qu'il reste? Il te fait choisir. Il te dit fais ou ne fais pas, ça s'appelle le permis. Bon, attendez pour voir si je parlais dans le vide ou là. Il y a ce Abou Anas. Abou Khuzayma veut dire quelque chose. Qui est c'est Abou Khuzayma? Abou Khuzayma, qui c'est? Tfadal, Abou Khuzayma, où es-tu? Où est d'abord Abou Khuzayma? Où est Abou Khuzayma? Qu'il lève la main pour que je le voie, Abou Khuzayma. Non. De toute façon, j'aurais aimé que ça soit dans les questions. Mais Malich, où est-ce qu'il est? Qu'il fasse vite seulement. Où est-ce qu'il est, Abou Khuzayma? Tfadal, Abou Khuzayma. Tfadal, Baraklof. Non, Jazakallah, c'est la même chose. C'est ce que je veux dire. Quand tu fais la prière et tu n'as pas mis quelque chose dans sur ta tête, pas dans, dans ta tête. Quand on ne met pas quelque chose sur sa tête, ça veut dire qu'on a fait un makruh. On a fait un makruh. Non, la prière, de la prière, elle ne change pas. Mais tu as fait un makruh. Ça veut dire que tu as fait rentrer dans ta prière au lieu qu'elle soit parfaite. Non, au lieu qu'elle soit parfaite, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un makruh. Non, ce que tu viens de faire, ça s'appelle un détestable. Non, c'est pour ça que des fois, la prière, elle a des chokm. Des fois, on dit c'est une prière, on dit batela. On dit batela. Des fois, on dit la prière, elle est valable. Et ainsi de suite. Donc, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Maintenant, je donne à. Où est-ce qu'il est? Le but de la vie. Le but de la vie. Tfadal, résume-moi très vite à nous les 5 choses. Jazakallahu khairan. Résume-moi très vite les 5 choses à nous. Avec le micro, barakallahu fik. Mais même chez Abou Khuzayma, quand c'est quelque chose qui nous fait faïda, tafadlal, quand c'est quelque chose qui fait faïda. Non, le but de la vie, répète ce que je viens de dire, très vite à les 5 choses. J'aurais préféré quelqu'un qui prenne le micro pour me dire les 5 choses comme ça très vite. Mais allez, écrivez, on aura besoin de les choses. On aura besoin d'elle, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Islam, tafadl. On entend, Inch'Allah. Bon, puisqu'il n'a pas parlé, pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah Ta'ala, j'ai une question et je vais attendre la question, Inch'Allah. Naam, attends la question, Inch'Allah Ta'ala. Sauf, je vais répéter très vite. Je fais une révision très vite. Hein. D'ailleurs, ce qu'il a écrit ici, ce qu'Allah nous a dit de faire avec insistance, c'est wajib. Si c'est sans insistance, c'est seulement mundoub. Quand il nous dit de ne pas faire une chose avec insistance, c'est haram. Quand c'est sans insistance, c'est makruh. Et quand on a le choix, c'est mubah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris. Makruh, c'est déconseillé. Naam. Makruh, c'est le déconseillé. Barakallahu, c'est le déconseillé. Je répète très vite. Quand l'Azawj nous dit, l'Azawj est son prophète, ou bien ils nous disent faites, ou bien ne faites pas, ou bien choisissez. S'ils nous disent de faire, s'ils insistent, c'est wajib et fard. S'il n'insiste pas, faites, mais sans insister, c'est seulement mundoub. Maintenant, s'ils nous disent ne faites pas, ils insistent, on dit c'est haram. Et s'ils nous disent ne faites pas, ils n'insistent pas, c'est seulement déconseillé. Et s'ils nous font choisir, c'est le makruh. Maintenant, quels sont les chokm, yani, quand on fait un makruh, ou là on fait haram, ou là on fait. Yani, quelle est la différence? Quelle est la différence? Ça c'est très important, il faut bien le comprendre. Ça c'est très important. Le wajib, ce que Allah Azza wa Jalla t'a dit de faire avec insistance, son jugement, son hukm, c'est si tu le fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Si tu ne le fais pas maintenant, sans avoir de raison, tu as un ism, tu as un péché. Je répète, pour la première sorte, qui est le wajib et qui s'appelle fard aussi, l'obligation. Quand on dit une chose est obligatoire, il faut que tu te mettes dans la tête cette chose. C'est quoi? C'est que si je la fais cette chose, en la cause d'Allah, je vais avoir un ajr. Si je ne la fais pas cette chose, sans avoir de raison, je vais avoir des péchés. Je répète, l'obligatoire. J'ai dit, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as un ajr. Qu'est-ce que ça veut dire en la cause d'Allah? Pourquoi j'ai mis entre parenthèses entre la cause d'Allah? Parce que tu peux faire la prière. C'est pas à cause d'Allah, à cause des gens par exemple. Quand tu es à la maison, tu fais jamais la prière. Dès que tu vois les invités venir ou là, tu commences. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça c'est pas à cause d'Allah, à cause de cette personne. Et pourtant tu as fait quelque chose qui s'appelle l'obligé, tu as fait la prière. mais tu n'as pas l'ajr. Pourquoi? Il faut la faire en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, pendant le ramadan, jeûnent, ils font le jeûne, mais c'est pas pour la cause d'Allah. Ils te disent, c'est les médecins ont conseillé ça. Ils disent, il faut rester un mois sans manger, le ventre, inchallah, on va c'est un médicament. Donc il a fait quoi? Il a fait le jeûne, masha'Allah. Le jeûne, c'est une obligation. Mais il n'a pas fait en la cause d'Allah. À cause de son corps ou à cause de ceci. Donc celui-là, il ne va pas avoir le ajr. Donc l'obligation, déjà, moi j'ai lu une fois, j'ai entendu, un professeur à l'université en Allemagne. Elle disait chaque matin, elle était professeure d'arabe en Allemagne, professeure d'arabe à l'université. Elle disait, moi chaque matin ou là chaque soir, il faut que je lise 5 ou 6 pages du Coran. Pourquoi tu lis? Je lis pour que ma langue se dénoue. Alors vous voyez, lire le Coran, c'est masha'Allah. C'est pas une obligation, ça rentre dans la deuxième sorte. C'est un mandoub, c'est quelque chose de conseillé. Mais cette femme ne l'a fait pas à cause d'Allah. Ça veut dire qu'elle n'a aucun ajr, aucune hasana, rien n'est écrit. Donc l'obligation, c'est ce qu'on fait. C'est si on l'a fait en la cause d'Allah, avec cette condition, en la cause d'Allah, on a ajr. Maintenant, si on ne l'a fait pas, sans avoir de raison, on a des ithm, des péchés. Je ne veux pas faire la prière du Asr aujourd'hui, je ne la fais pas. J'ai des péchés. Voilà donc l'obligation. Je ne vais pas jeûner pendant le ramadan, je vais manger un jour. Voilà. C'est un péché, j'ai des péchés. Et j'ai dit entre parenthèses, sauf si on a des raisons. C'est quelque chose que si tu ne la fais pas, sans raison, tu as des péchés. Des fois, tu ne fais pas l'obligation, mais tu as des raisons. Tu as des raisons. Par exemple, la salat de Asr, par exemple, c'est à 3h de l'après-midi. Moi, je m'endors à 2h de l'après-midi, 14h, je me réveille à 20h du soir. J'étais fatigué. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, je n'ai pas fait l'obligation qui est la salat. Mais je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Je n'ai pas voulu la faire? Non, je ne l'ai pas faite. Avec des raisons. J'ai dormi, je ne me suis pas réveillé. Je ne savais pas que j'allais pas me réveiller. Peut-être j'ai mis même devant moi un réveil et je ne l'ai pas entendu. Donc je n'ai pas de péché dans ce cas. Donc l'obligation, je répète, une obligation, c'est la chose que si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as des hasanat et des ajr. Et si tu ne l'as fait pas sans raison, tu as des péchés. C'est pour la première. Maintenant, le mandoub, la deuxième, quand on a parlé de l'obligation, ensuite deuxièmement on a dit la sunna, la surérogatoire. On a dit le conseiller, quelque chose qui est conseillé. Et j'ai donné par exemple, celui qui fait par exemple, il va jeûner par exemple l'Ashura, c'est pas obligé, c'est conseillé. S'il va jeûner chaque lundi, chaque jeudi, il jeûne. C'est pas obligé. C'est quoi? C'est recommandé. Ça s'appelle sunna, mandoub, nafila. Cette chose-là, c'est quoi cette chose? Voilà la différence entre elle et la première et l'obligation. Cette chose-là, la deuxième, comme je venais par exemple le Ashura, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as un ajr. Donc ici, il n'y a pas de différence entre celle-là et l'obligation. Celle-là et l'obligation, les deux, si tu les fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Mais la deuxième, celle-là, si tu ne la fais pas, même sans raison, tu n'as pas de péché. Voilà la différence. Ça veut dire elle se joint avec l'obligation dans la première partie. L'obligation et celle-là, qui s'appelle le conseiller, si tu les fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Mais la première, l'obligation, si tu la fais pas, sans raison, tu as un ithm, tu as des péchés. Et cette deuxième, si tu la fais pas, même sans raison, tu n'as rien. C'est lundi prochain, nous sommes lundi, nous sommes mardi, jeudi, dans 2 jours, c'est conseillé de faire le siyam, de jeûner. Moi, je ne vais pas jeûner. Pourquoi? Je n'ai pas de raison. Je ne veux pas. J'ai faim. Je veux boire du jus de fruits. Je veux manger les oranges. Je ne veux pas faire. Je n'ai pas de péché. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose seulement de conseiller. Si je fais le conseiller en la cause d'Allah, j'ai des hasanats, j'ai des ajr. Si je ne fais pas le conseiller sans raison, je n'ai pas de péché. Maintenant, on va au milieu. Au milieu, on a dit, ça s'appelle le permis, Mubah. Le Mubahada, si tu le fais, tu n'as rien. Si tu ne le fais pas, tu n'as rien. Tu manges les oranges, tu n'as rien. Tu ne manges pas, tu n'as rien. Tu montes dans la voiture, tu n'as rien. Tu descends de la voiture, tu n'as rien. Tu escalades, tu montes un arbre, tu n'as rien. Tu vas, j'allais dire, tu vas à la mer. Tu vas à la mer, il y a des conditions. Supposons que je sois à la mer, il n'y a ni femme ni rien. Et je nage, je n'ai rien. Je ne nage pas, je n'ai rien. Ça s'appelle permis, c'est tout. C'est permis. Mais le permis, si tu le fais, des fois le permis est là, qui est seulement permis, des fois tu peux le transformer en quoi ? En conseiller et tu auras des ajr. Par exemple, je donne un exemple très simple. Manger, c'est seulement permis. C'est seulement permis. Maintenant, moi je vais manger avec l'intention de pour devenir fort et pouvoir faire la prière la nuit. Je vais manger pour devenir fort. Et s'il y a le djihad, je vais le faire, car je suis fort. Maintenant, c'était seulement permis, mais maintenant j'ai changé l'intention. J'ai mis l'intention à cause d'Allah. Donc là, à une chose permise, Allah Azza wa Jal va me donner l'ajr. Regardez par exemple, s'approcher de sa femme, c'est seulement permis. Je ne veux pas me rapprocher, il y a une limite. Il y a certaines limites. Ensuite, c'est obligé de s'approcher, sinon tu divorces, bien sûr. Et par exemple, disons, je ne suis pas obligé de m'approcher chaque jour. Mais si quelqu'un fait l'intention, il dit, aujourd'hui, je vais m'approcher de ma femme avec l'intention que si Allah Azza wa Jal donne un enfant pour que je lui apprenne le Coran. Ah, là, ça a changé. C'était seulement permis, c'est devenu maintenant, tu as un ajr. Pourquoi ? Le permis, tu peux le rendre. Tu peux le rendre comment ? Tu peux le rendre. Tu peux avoir un ajr dans le permis si... Tu fais l'intention que c'est pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas acheter des choses pour le manger. Tu vas acheter des choses. Des fois, il y a des choses que tu n'es pas obligé d'acheter. Mais si avant de les acheter, tu vas dire, je vais les acheter, car il y a un hadith qui dit que chaque... Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que c'est sauf? Naam. J'étais au micro déconseillé. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est déconseillé? J'ai dit déconseillé, c'est Allah Azza wa Jal qui te dit de ne pas faire, mais sans insistance. Il n'a pas insisté. C'est-à-dire ne fais pas cette chose. Par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, quand un homme fait la prière avec la tête découverte, ou bien par exemple, donner avec la main gauche, etc. Ça, c'est déconseillé. Mais son jugement, c'est quoi? Si tu fais le déconseillé, tu n'as pas de hit. Si tu le fais, tu fais le deux, il t'a dit de ne pas faire sans insistance. Toi, tu vas le faire. Tu n'as pas de péché. Mais si tu ne le fais pas, tu dis je ne le fais pas, puisque c'est déconseillé, tu as des ajr, tu as des hasanat. C'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure dans la sunna, le mendoub et la surérogatoire. C'est le contraire exactement. Quelque chose qui est déconseillé sans insistance, makruh, vous lisez beaucoup dans les livres, ça c'est makruh, makruh. Vous entendez les ulama dire mekroh. C'est quoi mekroh? Ça veut dire t'as dit de ne pas faire sans insister. Donc si tu le fais, puisqu'il n'a pas insisté, donc si je le fais, je n'ai pas d'ithm. Et si je ne le fais pas, j'ai un ajr. J'ai un ajr pourquoi? Pour avoir obéi à Allah Azza wa Jalla qui m'a dit de ne pas le faire. Donc il va te donner un ajr, bien sûr, à condition que tu ne le fasses pas, mekroh, détestable, naam, le mekroh, le détestable. Non, le détestable, si tu le fais, tu n'as pas de péché. Et si tu le fais pas, tu as de l'âge à condition que tu ne le fasses pas. Pourquoi? En la cause d'Allah. C'est pas tu ne le fais pas parce que tu ne peux pas le faire. Non, tu ne le fais pas en la cause d'Allah. Là, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des ajr, inshallah ta'ala. Maintenant, dernière des choses, le haram. Le haram, l'illicite. C'est ce que Allah Azza wa Jalla t'a dit de ne pas faire avec insistance. Si tu le fais, jugement, si tu le fais, tu as des péchés. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le fais pas en la cause d'Allah, tu as un ajr, un grand ajr. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit de ne pas le faire et tu ne l'as pas fait. Et la différence entre lui, l'illicite et le makruh, l'illicite et le makruh se rejoignent en une chose, laquelle? Les deux, si tu ne les fais pas, tu as un ajr. Si tu ne les fais pas en la cause d'Allah, tu as un ajr. parce que l'Asie t'a dit de ne pas les faire. Mais il y a une différence entre l'illicite, le makruh, le détestable. Quand tu le fais, tu n'as pas de ism, tu n'as rien, parce que l'Asie n'a pas insisté. Et le haram, quand tu le fais, tu as un ism. Sauf si tu le fais, bien sûr, tu as des raisons. Par exemple, je te mets par exemple un revolver sur la tempe et je te dis bois l'alcool. L'alcool c'est haram de boire, ça c'est illicite. Bois l'alcool, sinon je te tue. Là si je bois, je n'ai rien, je n'ai pas de péché. Pourquoi? Dans mon cœur, je n'aime pas cela, je le déteste si c'est haram. C'est celui-là qui m'a forcé avec un revolver. Si maintenant je vais mourir de faim, il y a seulement du porc devant moi, du sanglier devant moi, il n'y a rien d'autre chose. Maintenant, ou bien je meurs de faim, ou bien je vais manger l'illicite, le haram. La plupart des ulama ont dit, si tu ne manges pas et tu laisses jusqu'à ce que tu meurs, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que c'est l'Azaj lui-même qui t'a permis. Donc, pourquoi tu ne veux pas prendre avec ses permissions? C'est lui qui t'a dit, si tu vas mourir, ne meurs pas, sauve ta vie, mange, je te permets, mange maintenant, mange seulement un peu juste pour vivre, et je ne vais pas te rentrer en enfer. Toi tu dis non, moi je ne mange pas et je vais mourir. Alors tu vas mourir, alors tu t'es tué, tu n'as pas voulu prendre la permission que Allah Azza wa Jal t'a donnée. Ça, c'est en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne le haram, naam, suicidé, en ce qui concerne le haram. Mais les ulama ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit, quand on est comme ça, on est contraint par exemple de manger le haram ou là, si l'animal est vivant, il a dit, si l'animal est vivant, tu dois l'égorger comme on égorge un mouton. Si l'animal est vivant, je meurs de faim, je n'ai trouvé ni à droite ni à gauche de quoi manger, je suis dans un désert, j'ai seulement un couteau avec moi, et j'ai rencontré un sanglier. Maintenant, il faut que je mange ce sanglier. Je n'ai pas autre chose, ni la faim, ni rien. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le manger sans l'égorger. Le sanglier, en principe, ça ne s'égorge pas. Tu dois l'égorger, dire Bismillah, l'égorger. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah. Daruatu nuzul, nuzilat mubah. Parce que ici, ce haram est devenu mubah. Il est devenu, tu peux le manger, il n'est plus haram. Et quelque chose qui n'est plus haram, c'est devenu comme un mouton. Ici, le sanglier est devenu un mouton. Ça y est. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus haram dans le cas où tu es. Donc, tu dois l'égorger avant de le manger. Si tu le trouves mort, bien sûr, tu le manges mort. Et tu manges, ce n'est pas juste comme on dit en français, rassasié. Je mange un kilo et je profite et je dis, oh, celui-là, comme il est bon. Hein. Allez, ça, dans ma vie, je n'ai pas mangé. Laisse-moi profiter aujourd'hui. Ça, c'est haram. Ça, tu es rentré dans le haram. Tu manges seulement pour pouvoir vivre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit, il est même permis pour quelqu'un qui sait qu'il va aller loin, et la route est longue, 1000 km dans le désert, et qu'il va rencontrer le même problème, il a dit, lui est permis même de prendre un peu avec lui dans un sachet. Il prend un peu avec lui, pourquoi? Parce qu'il va marcher encore 40 km, et c'est toujours le même problème. Je vais mourir de faim, et ensuite, où est la chose que je vais manger? Il a dit, tu prends avec toi et tu vois. Si tu trouves après le halal, tu jettes le haram. Si tu ne trouves pas, tu manges jusqu'à ce que tu arrives où tu vas trouver le halal, inshallah ta'ala. Je vais me répéter en ce qui concerne seulement le jugement de ces cinq choses. Ensuite, inshallah ta'ala, je vous écris maintenant Ibn Taymiyyah, Wotmay. Pardon Allah, vous connaissez Ali, Wotmay. Ensuite, je demande à quiconque a assisté à ce dars de m'écrire à cette adresse Ibn Taymiyyah Hotmail.com. Il me répète ce que je vais dire maintenant en ce qui concerne le jugement des cinq choses. J'ai dit, en ce qui concerne le wajib, en ce qui concerne l'obligatoire, si tu le fais en la cause d'Allah, tu as un ajr. Si tu ne le fais pas sans raison, tu as un ism. Si tu ne le fais pas sans raison, tu as un ism. Naam, je vais te donner la parole, Inch'Allah. Je vais te donner la parole maintenant. Je répète, l'obligatoire. Si tu le fais en la cause d'Allah, celui qui ouvre la parenthèse en la cause d'Allah, il a zéro. Parce que je l'ai fait à cause des gens. Celui qui fait l'obligatoire en la cause d'Allah, il a un ajr. Ajr, ça veut dire hasana, des bienfaits. Celui qui ne le fait pas, mais il a des raisons, sans raison, il a un ithm, il a des siyat, c'est un péché. C'est-à-dire l'obligatoire. Ensuite, le mandoub, le surrogatoire, seulement conseiller, le conseiller. Il t'a conseillé de le faire. Si tu le fais, en la cause d'Allah, tu as un bienfait. Si tu ne le fais pas, même sans raison, tu n'as pas de péché. Car il t'a conseillé sans insistance. Ensuite, troisièmement, on a le permis. Le permis, tu le fais, tu le fais pas. Tu n'as ni ajr, ni bienfait, ni mal fait. Sauf dans un cas, quel est le cas? Si tu le fais, le mubah, le permis, tu le fais avec l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux faire quelque chose en l'intention d'Allah, ta permis zadi va devenir quoi? Tu auras un ajr à cause d'elle. Quatrièmement, le déconseiller, le makruh. Le déconseiller, le makruh. Si tu le fais, tu n'as pas de ism, tu n'as pas de péché, tu n'as pas de mal fait. Pourquoi? Parce que il t'a déconseillé sans insistance. Mais si tu ne le fais pas, si tu le laisses, tu ne le fais pas en la cause d'Allah, tu as un ajr. Tu as un ajr. Pourquoi? Parce que j'ai laissé cette chose, je l'ai laissé en la cause d'Allah. C'est lui qui m'a dit de ne la pas faire. Il m'a déconseillé. Donc, je ne l'ai pas faite. Donc, j'ai un ajr. Et enfin, l'illicite, le haram. Si tu le fais, le haram, sans être contraint de le faire, tu le fais toi-même, tu vas le faire, tu as ithm, tu as des péchés, un malfait, tu as siyat. Mais si tu ne le fais pas en la cause d'Allah, c'est parce que Allah t'a dit de ne pas le faire. Il a insisté, tu as quoi? Tu as des hasanats, tu as des ajr. Tu as des ajr. Je souhaite à Allah Azza wa Jalla qu'il vous ait ouvert vos cœurs pour comprendre cela. Pour cela, c'est très important. Mais en fin de compte, c'est simple. C'est presque mathématique. C'est comme des mathématiques. Seulement, il y a force d'entendre ces choses, ça devient par la suite très facile. Ensuite, tu vas remercier Allah Azza wa Jalla quand tu lis un livre ou tu entends un alim qui est en train de parler dans une cassette ou là à la télé, je ne sais pas quoi. Il dit ça. C'est même double. Répétez s'il vous plaît la troisième et la quatrième. Il y a quelqu'un qui me dit répétez la troisième et la quatrième. La troisième, j'ai dit le permis. Mubahada, c'est seulement permis. Tu le fais ou tu ne le fais pas, tu n'as ni ajr, tu n'as ni yani, bien fait ni mal fait. Parce que c'est seulement permis. C'est comme manger des mandarines. Tu manges pas, tu n'as ni hasanat ni sayyat. Mais si tu manges avec une autre idée, avec l'intention de faire quelque chose en islam, ou là, de faire une adoration, ou là, l'azoul va te donner ajr, va te donner un ajr. Là, le troisième. Le quatrième, c'est le makruh. Makruh, déconseillé sans insistance. Si tu ne le fais pas, en la cause d'Allah, tu vas avoir des hasanats. Parce que tu ne l'as pas fait en la cause d'Allah. Parce que lui, il t'a dit de ne pas le faire, même si c'est sans insistance. C'est-à-dire si tu ne le fais pas. Et si tu le fais, le makruh, si tu le fais, tu n'as pas de péché. Pourquoi? Parce que quand il t'a déconseillé, il n'a pas insisté. Hein? C'est comme par exemple... maintenant l'exemple. Maintenant, on va commencer le dars, inshallah ta'ala, t'as les ablutions. J'ai oublié une chose importante. D'accord. J'ai oublié une chose importante. Quand j'ai parlé le premier, j'ai parlé de l'obligation, j'ai dit l'wajib. Le wajib, l'obligation. Je voudrais vous dire une chose ici très très importante. Le wajib hada, naam, je te donnerai le micro dans, inshallah, ta'ala, 10 secondes. Le wajib, regardez vos notes si vous avez écrit, le wajib en haut, première des choses, l'obligation, le wajib hada, il se divise aussi, bien sûr, il se divise en 4 ou 5 sortes. Aujourd'hui, on va parler d'une seule sorte. Il se divise en mutlaq, muqayyad, mu'ayyan, ils divisent en beaucoup de choses. Mu'aqqat. Bref, maintenant on va parler d'une seule chose qui est importante, l'obligation, al-fard, des fois, on l'appelle, il y a deux sortes. Une sorte, ça s'appelle aïni, une sorte, ça s'appelle kifa, et je vais donner des exemples pour vous compreniez. L'obligation, le fard, se divise en deux. Obligation Aïni. Aïni en arabe, ça veut dire une obligation que chaque personne doit faire. Et kifa'i, kifa'i, c'est la deuxième sorte, c'est une obligation que ce n'est pas tout le monde doit la faire. Mais elle-même, l'obligation, si elle a été faite, khalas, deux ou trois la font, ça suffit. Je donne un exemple. L'obligation, la première, j'ai appelé Aïni. Aïni, ça veut dire l'obligation personnelle que chaque personne doit faire. Par exemple, la salat, la zone, quand il a fait la prière, les saintes prières. Est-ce qu'il y a quelques gens vont dire, ben, puisque mon père et ma mère font la prière, c'est pas la peine que je la fasse. Non, c'est une obligation personnelle que chacun doit faire. Ça s'appelle Aïni. Et la deuxième sorte, il y a des obligations en islam, ça s'appelle Kifa'i. C'est pas personnel, c'est pour un groupe. Ça veut dire, si un groupe l'a fait, ça suffit. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est mort. Ne doit-on pas obligatoirement le laver et l'enterrer? Si, obligé, c'est obligatoire. Maintenant, puisque c'est une obligation, donc, est-ce que tout le monde va le laver et tout le monde va l'enterrer? Nous sommes 500 000 dans une ville, il y a quelqu'un qui est mort. Nous tous, les 500 000, on va rentrer dans sa chambre pour le laver, et les 500 000, on va prendre son cercueil. C'est impossible. Bon, rentrer dans sa chambre, 1, 3, 5, juste pour le laver. Et vont porter le cercueil, 4 personnes, et il y a des gens qui suivent derrière. Pas tout le monde va aller à cette djinaza, ça s'appelle djinaza. Pourquoi? Parce que c'est une obligation, ce n'est pas personnel. C'est une obligation que tout le monde doit faire. Naam, comme la cigarette, Barakallahu, je vais parler de la cigarette. Naam, c'est très long. Donc l'obligation, elle se divise comment? Obligation personnelle que tout le monde doit faire. Et obligation par groupe, ça veut dire si les uns la fassent, ça suffit. On n'est pas obligé tous de la faire. Et ici, ceux qui vont faire cette obligation qui n'est pas personnelle, par exemple ceux qui vont laver le mort ici, dans notre cas, il y a 3 personnes qui vont laver le mort. Lorsqu'ils le lavent, eux, les 3 qui l'ont lavé, vont avoir des hasanats. Des hasanats, pourquoi? Parce qu'ils l'ont lavé. Et nous, les 400 997 qui n'ont pas lavé, parce que j'ai dit on était 500 000, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont? Ceux-là, alhamdoulilah, ils ne vont pas avoir de ithm. Ils ne vont pas avoir de ajr, de bienfait, parce qu'ils n'ont pas lavé, mais ils ont échappé à une chose, ils ne vont pas avoir le ithm, ils ne vont pas avoir le péché. Mais si nous tous, les 500 000, on ne va pas le laver, on ne va pas faire cette obligation qui est une obligation de groupe, qui n'est pas une obligation personnelle, qu'est-ce qui va se passer? Nous tous, les 500 000, on va avoir un péché. Donc je répète la dernière fois, les obligations de sorte, il y a personnel. Tout le monde doit la faire. Quiconque ne fait pas l'obligation personnelle, comme le jeûne, comme le siyam, comme le hajj pour celui qui a de l'argent et qui peut. Quiconque ne le fait pas, il a un péché. Sauf s'il a des raisons, bien sûr. Et la deuxième sorte, ça s'appelle groupe de groupe, une obligation de groupe. Là, dans cette obligation, il ne voit pas quels sont les gens qui vont la faire. Il voit est-ce que la chose a été faite ou non. Tandis que dans la première obligation, l'obligation personnelle, il voit chaque personne. Il veut que chaque personne la fasse. Et dans cette deuxième sorte, il ne voit pas qui va la faire. Il voit est-ce qu'elle a été faite ou pas. Si elle a été faite, le groupe qui l'a fait va avoir des hasanats. Et tous ceux qui ne l'ont pas fait, alhamdoulilah, ils ne vont pas avoir de ithm. Pas de siyat. Mais si tous ne vont pas laver le mort, par exemple, et l'enterrer, tous, les 500 000 ou les 5 millions, je ne sais pas comment qui sont, tous ceux-là, ils vont avoir un ith. Donc, par exemple, la médecine. C'est une obligation, la médecine, ou c'est une obligation? C'est pas une obligation. C'est une obligation. Il faut qu'il y ait... Il y a quelqu'un qui m'invite ici, je peux pas. La médecine, il faut qu'il y ait dans la nation des médecins. Il faut que chaque ville, au moins, je sais pas, 5, 10 médecins, d'après combien il y a d'habitants dans la ville. La médecine, c'est une chose obligatoire. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit... Abu Daoud, on est obligé de comment on dit tadawu, j'ai oublié comment on dit tadawi, Donc, en ce qui concerne les médicaments, quand on est malade, guérir. Ce n'est pas guérir, c'est guérir. La guérison, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre verbe. Attends, je vais te le dire. C'est pas guérir. Guérir, c'est Allah Azzawajal qui guérit. Mais il y a autre chose. Prévention. Non. Se soigner. Barakallahu fikum. Se faire soigner. Naam. Se faire soigner. On doit se faire soigner. Bien sûr, on doit se faire soigner. Ensuite, il y a un peu de conditions. Mais, et c'est pour ça que j'ai dit, donc la médecine, devenir médecin, c'est une obligation. Mais est-ce une obligation personnelle? Nous tous, les 500 000 qui habitent la ville, on va devenir médecin, ou là on va choisir quelques-uns. Par exemple, le gouverneur, on lui envoie la liste, par exemple, des bacheliers. Lui, il voit qu'on n'a pas de médecin. Il va dire, les 10 ceux-là, XXX qui les a choisis, il doit faire médecine. Et cela, il doit faire médecine. Pourquoi? C'est une obligation de groupe. C'est pas une obligation personnelle. La médecine, l'agriculture. Supposez qu'on n'est pas. Il n'y a pas de. Dans ce monde, il n'y a pas les agriculteurs. Tous, ils vont dire, on va faire médecine ou on va faire, je ne sais pas, ingénieur. Qui va nous planter les pommes de terre? Qui va s'occuper des arbres? Qui va s'occuper de la terre? Donc ça, c'est une obligation, mais c'est une obligation qui est seulement de groupe. Si un groupe l'a fait, tous les autres ne sont pas obligés de la faire. Ça, c'est en ce qui concerne l'obligé. Je terminerai par une chose que j'ai oubliée. Alhamdoulilah, je me suis rappelé. Quand j'ai parlé de la deuxième chose, j'ai dit, c'est la sunna, c'est le mendoub, c'est la nefila, c'est le conseiller, c'est tout. C'est le conseiller. Quand par exemple jeûner le lundi et jeudi, c'est seulement conseiller. Le conseiller Rada se divise en deux groupes aussi, comme l'obligatoire. En deux groupes. Il y a le conseiller vivement et le conseiller, c'est tout. Donc deux groupes. Seulement conseiller et conseiller vivement. Sunna, c'est conseiller. Sunna mu'akkada, vivement conseiller. Il y a des sunna, tu fais le jeûne lundi et jeudi, c'est une sunna, c'est conseiller. Tu fais Salat, la prière qui s'appelle Salat Doha. Tu te lèves à 8h30 du matin, à 9h, tu fais 2, 4, 6, 8, 10 jusqu'à 12. C'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 8 quand il était à Mecca. Dans un hadith sahih, il a dit faites 12. Donc si tu fais Salat Doha, c'est conseillé seulement. Tu as un ajr quand tu l'as fait. Mais il y a des choses qui sont conseillées vivement. Comme par exemple, les 12 rak'at de la Salat. De Fajr. Après ça, avant salat subh, avant la salat du matin, tu fais deux fajr. Tu lis qu'il y a eu le kafirun, qu'il y a eu le ahad, après l'alhamdulillah. Quatre avant le dhuhr. Deux après le dhuhr. Ça fait quatre, six, huit. Deux après le maghrib. Deux après le isha. Naam, recommandée, elle est recommandée. Elle n'est pas seulement conseillée, elle est recommandée vivement. Ça veut dire seulement mu'akkada. Par exemple, la salat, donc les 12 que je viens de dire, ça s'appelle salat rawatib. C'est recommandé, c'est mu'akkada. Sunna mu'akkada. Il y a par exemple le fajr. Le fajr, c'est une sunna mu'akkada. Le 8, salat le 8, c'est une sunna mu'akkada. Comment on fait la différence entre une sunna simple et une sunna mu'akkada? La sunna simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il la faisait, des fois il ne la faisait pas. Des fois il jeûnait lundi, jeudi, des fois il ne le faisait pas un mois. Pourquoi? C'est une sunna simple. Mais la sunna, quand elle est recommandée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en principe, il ne la lâche que dans très rare. Très rarement, il ne la fait pas. Très rarement. Nouavaba. Il s'habitue. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait cette chose beaucoup, sans la laisser que rarement, on dit c'est quelque chose de recommandé. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des choses, et des fois il ne les fait pas, on dit c'est une sunna seulement. Elle n'est pas recommandée vivement. C'est pas une sunna mu'akkada. Et pour que vous sachiez, parmi la sunna recommandée elle-même, qui est recommandée mu'akkada, les ulama ont dit la plus recommandée des recommandées, c'est salat al-fajr ou salat al-witr, la prière du fajr et la prière du witr. Ce sont les plus recommandées. Des recommandés. Pourquoi? Quel est le délit? le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais laissé la prière du fajr et la prière du witr, même quand il était en voyage. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors que lui, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, il ne faisait pas les 12 rak'at. Les 12 rak'at dont je vous ai parlé, qui sont, les 12 rak'at sont une sunna recommandée, mu'akkada, et il ne le faisait pas. Ce qui veut dire que le witr et le fajr sont plus recommandés. Donc dans la sunna recommandée, il y a plus recommandé, ou il y a recommandé vivement. C'est salat al-fajr et salat quoi? Salat al-witr. Celles-là, ces deux salats, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont recommandées vivement. Celles-là, on ne les lâche, on ne les laisse pas, ni dans le voyage, ni quand tu es, on n'est pas en voyage. Car le prophète, même en voyage, il les faisait. Par contre, les 12 rak'at qui sont recommandés, sunnah mu'akkada, il ne le faisait pas en voyage. Maintenant, en ce qui concerne le jugement, quel est le jugement, la différence entre le jugement de la sunnah normale et de la sunnah mu'akkada? La sunnah normale, comme jeûne et lundi et jeudi, ou bien la prière de la Doha par exemple, ou bien par exemple tu fais Karam Ashura, ça s'appelle sunnah faqat, recommandé, c'est tout. Celle-là, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as un ajr, tu as fait la sunnah, alhamdoulilah, c'est fait de conseiller. Si tu ne l'as fait pas, tu n'as pas de ism, alhamdoulilah, tu n'as pas de péché, c'est seulement une sunnah, c'est conseillé. Mais maintenant, la sunna recommandée, mu'akkada, si tu l'as fait, tu as un ajr, alhamdoulilah, tu as des bienfaits. Et si tu ne l'as fait pas, tu n'as rien, tu n'as pas de péché. Alors quelqu'un va me dire, alors quelle est la différence entre mu'akkada et l'autre? Les deux, si tu les fais, tu as des bienfaits, tu ne les fais pas, tu n'as pas de péché, tu n'as rien. Quelle est la différence? La différence, c'est que la sunna simple, quand tu l'as fait, tu as un ajr, quand tu ne la fais pas, tu n'as pas de péché. Et l'autre, la recommandée sunna mu'akkada, quand tu l'as fait, tu as un ajr, mais quand tu ne la fais pas, tu n'as pas de péché. Ça veut dire demain, quand tu vas rencontrer l'ajr, tu n'as rien, alhamdoulilah. Mais ici, dans ce bas monde, on a le droit de te plaindre. Voilà la différence. C'est pour ça que Ahmed, radiallahu ta'ala anhu, on lui a dit de quelqu'un, voilà, qui était assis avec lui, ou bien on lui a montré, on lui a dit, celui-là, il ne fait pas la prière du witr. Il ne fait pas la prière du witr. Il a dit, innahu rajulu su. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Siyé, su. C'est quelqu'un de su, celui-là. Et il a dit, je n'accepte pas son témoignage. Si j'ai un mariage, je le fais pas venir pour témoigner. Pourquoi? C'est quelqu'un qui ne fait pas salat du witr. Donc quelqu'un qui ne fait pas salat al-witr ou salat al-fajr, salat al-witr, salat al-fajr, je viens de le dire, c'est une sunna vivement recommandée. Si tu l'as fait, tu as un ajr, tu ne l'as fait pas, tu n'as pas de péché devant Allah, mais ici dans cette vie, on a le droit de te plaindre. J'ai un mariage, je ne t'invite pas comme témoin. Pourquoi tu ne fais pas la salat al-witr? Pourquoi? Parce qu'elle est recommandée vivement. Mais on parle de ceux qui ne la font pas tout le temps. Parle pas par exemple celui qui... des fois il l'a fait pas une fois dans sa vie, voilà. Non, celui il dit là, moi je me suffis, je me contente de 5 prières, je n'ai pas besoin du fajr, je n'ai pas besoin du witr surtout. Donc j'ai dit de toutes les prières, c'est le fajr et le witr qui sont les plus importantes, et peut-être des deux, le witr est très important, car Allah Azza wa Jal, comme a dit le prophète alayhi salam, il a dit Allah witr yuhibb al witr. Allah witr, witr ça veut dire un père. Quand on dit en arabe, c'est impair. Allah Azza wa Jal, witr, et qu'est-ce qu'il aime? Il aime le witr, la salat al witr. C'est le prophète Assam, il a dit Autiro, il nous a donné un ordre. Autiro, faites la salat al witr. Oum Soufiane qui avait posé la question de la cigarette, est-ce que c'est makruh ou c'est haram? Si on dit makruh, ça veut dire que celui qui ne fume pas la cigarette, en la cause d'Allah, il a un ajr, et celui qui la fume, il n'a pas de péché. Et si on dit c'est haram, ça veut dire celui qui ne fume pas la cigarette en la cause d'Allah, il a un ajr. Et s'il ne la fume pas, à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a? Il a des hasanatil. Attends pas, ma tête n'est pas avec moi. La cigarette, si on dit elle est haram, s'il va fumer, il a des péchés. S'il va fumer, il a des péchés. Mais s'il ne va pas fumer en la cause d'Allah, il va avoir des ajr. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, celui qui croit que la cigarette est seulement makruh, il s'est trompé. La cigarette, c'est haram. La cigarette, ce n'est pas makruh. La cigarette, quand tu la fumes, tu as des péchés. Parce que en islam, le prophète a dit, la darar wa la darar. Il n'y a pas en islam quelque chose qui fait mal. Ramenez-moi un garçon de 6 ans et dites-lui, est-ce que la cigarette, elle fait mal ou elle fait pas mal? Il va vous dire, elle fait mal. Apportez-moi quelqu'un de 70 ans qui a fumé pendant 40 ans. Je vais rentrer avec lui faire une radio de, je sais pas comment ça s'appelle à l'intérieur, elle dit Kibda wa Kada, et je vais lui montrer comment est devenu ce qu'il a à l'intérieur de Kibda. Je vais lui montrer le poumon. Je vais lui montrer le poumon, comment qu'il est tout noir, comment qu'il est troué, hein, le poumon, l'âme. Je vais lui montrer comment qu'il est noir, comment qu'il est troué, comment qu'il commence à se... Il y a des sept têtes, hein. Il y a des morceaux déjà qui vont commencer à tomber. Ensuite, il va avoir le cancer très bientôt. Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. Ensuite, ça veut dire qu'il s'est suicidé. Toute personne meurt à cause de la cigarette, ça veut dire qu'elle s'est suicidée. Parce que Allah azza wa jalla a dit, il n'y a pas en islam quelque chose qui fait mal. Et vous devez savoir aussi une chose très importante. Certains masakins et aminés, les gens ne connaissent pas bien le dîn, etc. Qu'est-ce qu'il va dire, miskin, le pauvre? Il va dire, nafsi, ah, c'est mon âme, je suis libre, c'est mon âme, je fais ce que je veux. Je lui dis, non, pardon, ce n'est pas ton âme. C'est Allah Azzawajal qui t'a créé ton âme, il t'a laissé en toi une amana. Il t'a laissé amana chez toi. Il t'a laissé en dépôt. Et demain, quand tu meurs, il va te dire, donne-moi mon amana. C'est comme si je te laisse une voiture dans le garage, je vais faire un voyage un mois et je reviens. Toi, tu prends la voiture, tu vas dans tous les endroits, à classe des pneus, classe, il n'y a rien, il y a la fumée derrière, etc. Tu me rends ensuite la voiture, je te dis pardon, c'est pas comme ça que je t'ai laissé la voiture. Là, je vais te dire, c'est pas comme ça que je t'ai donné, moi, ton corps. Je t'ai donné fort, sain, pur, propre, tu t'es fait tomber malade. Ensuite, tu t'es fait donner le cancer, ensuite, tu es mort à cause de cette chose-là. Va te dire non. Si tu veux la cigarette, va construire, hein, achète du plastique, de la cire, construis une poupée, et donne-lui la cigarette dans sa bouche. Mets-lui la cigarette dans sa bouche, laisse-la fumer. Celle-là, c'est pas l'Azerville qui a créé la poupée. C'est toi qui l'as construite, donne-lui la cigarette jusqu'à ce qu'elle éclate. Ada, ça ne fait rien. Il n'y a pas de bouche là. Mais ton corps, non. C'est l'Azel qui l'a créé, il est chez toi en dépôt. Demain, il te dit, rends-moi la amana, rends-moi. Hein? Nous, on a, par malheur, malaise, on a un Algérien très connu. Je veux pas dire son nom, il a chanté une chanson très connue. Nafsi wa ana moulaha. Mon âme m'appartient et c'est moi son maître. Il est devenu très, très connu avec cette chanson. Nafsi wa ana moulaha. Les Algériens, des Mashafs, dans les années 80 ou là, du matin au soir, Nafsi wa ana moulaha, Nafsi wa ana moulaha. Non, 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 ce n'est pas Nafsik, c'est Nafsi Allah Azza wa Jal, wa huwa moulaha. Et c'est lui son maître, c'est pas toi. Ensuite, une chose très grave, le jour du jugement dernier, tout ce qu'on fait, qu'on péché, etc., va venir avec nous. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhbara wa ma amilat min su. Le jour où chaque personne qui viendra trouvera tout ce qu'elle a fait de bien devant elle et tout ce qu'elle a fait de mal devant elle. On va venir rencontrer Allah Azza wa Jal avec des montagnes de péchés et des montagnes de bienfaits. Alors quand Allah Azza wa Jal, tu iras avec lui avec des montagnes de cigarettes posées comme ça devant toi. Des paquets de Marlboro, de je ne sais pas quoi, j'ai oublié leur nom, des milliers posés devant toi. Allah Azza wa Jal te dira, écoute mon serviteur, aujourd'hui il y a une balance. Il y a une balance, c'est elle qui va peser. Dis-moi, d'après toi, cette montagne de cigarettes, je vais la mettre du côté des bienfaits ou du côté des malfaits? Si tu vas lui dire, ya Allah, mets-la du côté des hasanat, subhanallah al-adim, ça c'est impossible. Tous les gens vont dire, subhanallah, donc c'était bien fumé, pourquoi on n'a pas fumé? Donc, si tu vas lui dire, mets-les dans le côté de la hasanat, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va mentir. Donc il ne reste que, tu lui dis, mêlé dans l'autre côté, dans le côté qui, s'il descend, je rentre en enfer. Donc c'est une grande mouchkila. Ensuite, là, sûrement, peut-être qu'il te dira, toi, on va te compter ce que tu as fumé, combien ça donne. On va te compter, c'est très vite, là, il va dire, par exemple, tu as fumé, par exemple, hein, je donne les exemples faux, mais c'est comme ça en euros, hein, il va te dire, par exemple, tu as fumé 10 000 euros. Je ne sais pas combien ça donne, 10 000 euros. Il va te dire, moi, je t'avais ordonné, ou là, je t'avais conseillé, de donner aux pauvres seulement 10 euros si tu les avais donnés, peut-être tu serais aujourd'hui au paradis. Et regarde combien tu as yani, jeté comme ça, 1000 ou 10 000 ou là, je sais pas, 100 000 euros qui sont partis comme ça, en fumée. Et puis quand quelqu'un l'azur, il le guide, il fait rentrer yani, il mène dans son cœur, et il déteste cette cigarette et ensuite il ne fume plus parce que c'est l'azoul qui aide. Personne ne peut, il va dire demain je vais arrêter la cigarette, sauf s'il fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit pour qu'il l'aide et qu'il soit sincère et que khalas, il a une conviction que c'est haram. Dans ce cas, entre parenthèses, dans ce cas, celui qui veut arrêter de fumer, je lui donne un conseil, c'est pas la peine qu'il dise je vais arrêter doucement, attends ce mois, Inch'Allah, je vais fumer seulement 2 paquets. Deuxième mois, 1 paquet. Ensuite, une demi-cigarette par jour et je vais arrêter. Ça, c'est impossible. Si tu dis, je vais arrêter, tu vas faire un doigt et peut-être quand tu vas faire la prière, l'obligatoire, ou là tu fais une nafila et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que à partir d'aujourd'hui, ça y est la cigarette. Tu te lèves le lendemain, il n'y a pas de cigarette. Un jour, deux jours, trois jours, cinq, une semaine de maux de tête. Tu prends une serviette, je ne sais pas comment ça, un foulard, et tu t'attaches la tête, le front. Ça s'appelle le djihad fi sabilillah. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire le djihad. Tu avais quelque chose qui coulait dans tes veines, je la laisse pour la cause d'Allah. La cigarette, c'est pour moi la chose la meilleure au monde, mais je vais la laisser en la cause d'Allah. Si c'était pour Allah Azza wa Jalla qui ne voulait pas, j'en aurais fumé 5 paquets par jour. Mais à cause de l'Azza wa Jal, je suis prêt à ne pas fumer et à ne pas boire l'alcool qui coule dans mes veins. L'Azza wa Jal dira, voilà le vrai croyant. Voilà la chose qu'il aime plus. Maintenant, il m'aime moi plus que cette chose. Ulladina amanu ashaddu hubban lillah. L'Azza wa Jal dans le Coran, et les croyants aiment Allah plus qu'autre chose. Ulladina amanu ashaddu hubban, il aime Allah plus que toutes les choses, toutes les autres. Il a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Ceux qui feront le djihad en moi. Qu'est-ce que ça veut dire en moi? لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Je vais les aider, leur ouvrir les portes. Qu'est-ce que ça veut dire en moi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a expliqué le Coran. Dans un hadith sahih. Rawa Ahmed al-Albani qal sanadu sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset, il a dit, ceux qui vont faire le djihad en moi, c'est-à-dire le djihad de l'âme, c'est pas le djihad du revolver et les fusées. Le djihad de l'âme, quelque chose que tu aimes et qui est haram, tu la laisses à cause de moi. Quelque chose que j'aime moi et que tu n'aimes pas toi, tu la fais à cause de moi. Ça s'appelle djihad nafs. Djihad nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih du Bukhari, dans le Bukhari, le deuxième livre le plus juste après le Coran. Il a dit, Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi dhatillah. Le Mujahid, c'est celui qui a fait le djihad en son âme, pour son âme, pas pour l'un et l'autre, pour son âme, en la cause d'Allah. Il n'y a pas plus grand djihad que ne pas fumer pour celui qui fumait, ne pas boire l'alcool pour celui qui buvait, et ne pas se droguer pour celui qui se droguait. Ça, c'est le plus grand djihad du monde. C'est beaucoup plus difficile que l'autre djihad. Voilà, il y a quelqu'un maintenant qui dit, pour une information, juste pour une personne qui achète un paquet toutes les semaines, suppose une personne qui achète un paquet de cigarettes toutes les semaines, ça se fait pas. C'est un paquet tous les jours, mais ça ne fait rien. Nous, on suppose seulement un paquet une semaine. Et quelqu'un qui a fumé pendant 40 ans, 40 ans, seulement un paquet, hein, seulement lui, il en fume deux par jour. Nous disons deux par jour. Nous, on a dit une fois par semaine. Ça donne 288 000 euros. 288 000 euros. Barakallahu fik, l'okht. Essaye de me faire, si tu as une calculatrice, pour quelqu'un qui fume deux, seulement au niveau des rappels. Il faut qu'il y ait aussi du ilm, pas le b'ilm. Hein, il faut que tu sentes que tu es en train de faire des efforts. Il n'y a pas un plus grand djihad aussi que demander le ilm. Demander le ilm, c'est l'un des plus grands djihad aussi. Tu es là assis, d'autres sont en train de danser, de je ne sais pas de quoi faire, toi tu es là. Hein, peut-être difficile à comprendre, tu essaies de comprendre, tu poses des questions, tu veux. Tout ça pourquoi? Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train d'apprendre quelque chose du Créateur Azzawajal, qui t'a créé et qui aimerait que tu le connaisses. Et tu ne le connaîtras pas si tu ne connais pas sa religion. Car avec ces choses-là que tu apprends, tu vas connaître sa religion. Et si tu connais sa religion, khlas, ça veut dire que tu es rapproché de l'Allah et tu es devenu un savant bi'idhni subhanahu wa ta'ala. Maintenant, j'ai dit, Oumaliya, tafadali, Oumaliya. Tafadali avant que je commence. Oumaliya, suis vite, barakallahu fik. Inch'Allah, naam. Non, les questions, pas maintenant, barakallahu fik. Non, je ne sais pas, peut-être qu'elle a quelque chose à dire ou là. Les questions, inch'Allah, juste après le dars. Juste après le dars, salat ala, même si vous voulez, je vous répète tout ce que vous voulez. Akhi Abdelaziz, maintenant, si tu veux reprendre le micro, si tu peux, prends-le. Si tu peux maintenant parler, inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va parler des grandes ablutions du rusk. On en a parlé beaucoup, ça c'est mon bon email, inshallah. On en a parlé beaucoup, on a terminé les eaux, les toilettes, on a terminé les petites ablutions. Maintenant on est dans les grandes ablutions. Je vais réviser seulement les grandes ablutions. Inshallah ta'ala, il reste quoi? Il reste maintenant, juste après, c'est tayammum. Tayammum, c'est très important, beaucoup de gens ne savent pas comment le faire, quand est-ce qu'on le fait, comment qu'il s'annule, etc. Ensuite, juste après, ce qui a rapport avec les monstres des femmes, on tue juste après les lochis, on suit juste après, on commence la salat. La salat, c'est très important. Beaucoup de gens ne font pas la vraie prière et ils ne savent pas. Beaucoup de gens ne la font pas comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est lui qui a dit sallu kama ra'aytumuni salli ou salli. Faites la prière comme vous m'avez vu en train de la faire. C'est pour ça que Inch'Allah ta'ala, il faut avoir un peu de patience. Maintenant, moi, tfaddal Hamza, tfaddal. Hamza, tfaddal. Puis-je mettre un lien pour le salat? Je vous avais parlé. Tfaddal, tfaddal Hamza, mets-le. Naam. Tout à l'heure, quand on a parlé. Naam, jazakallah khair. Tout à l'heure, quand on a parlé de. On a parlé de quelqu'un qui fume un paquet par jour, qui fume, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, un paquet par semaine. Naam. Pour une personne qui fume un paquet par semaine, ça donne en 40 ans ce chiffre-là. Je vois le lien, Barclay. Ça donne en 40 ans, une unité simple, 3 836 880 euros. Pour celui qui a fumé, combien ? Celui qui fume un paquet par semaine. Voilà combien ça donne. Un paquet par semaine. Tandis que celui qui fume deux paquets par jour. Celui qui fume deux paquets par jour, voilà ce que ça donne. Pour celui qui sait compter, 53 290 000 euros. 53 millions d'euros, 290 000. Pour celui qui fume deux paquets pendant 40 ans. Je crois que ce 53 millions, c'est beaucoup d'argent. Car un paquet coûte 5 euros. Car un paquet coûte 5 euros, comme on vient de me le dire. En ce qui concerne le rusk, je fais une petite révision, elle est simple et. Parce que on a assez parlé du rusk. Quand quelqu'un veut faire le rusk, que ça soit de la djellaba, parce qu'il a eu un rapport avec sa femme, ou que ça soit des monstrues, par exemple, ou des lochis. Maintenant, on veut faire le lavage majeur. On veut faire le lavage majeur. Qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord les mains, on les lave. Ensuite, on se lave par devant et par derrière, les parties intimes. On commence par se laver les parties intimes par devant et par derrière pour ne plus y revenir dans ces deux endroits. Ensuite, après avoir lavé les deux parties intimes, on se lave les mains avec le savon ou là avec un shampoing ou avec n'importe quoi car elles étaient dans les deux parties intimes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On dit Bismillah et on commence des petites ablutions. On dit Bismillah et on commence à faire des petites ablutions. C'est-à-dire, on commence par des mains. On commence par les mains, ensuite trois fois, il y en a jusqu'au poignet, la bouche et le nez. N'oubliez pas que la bouche et le nez, on les fait les deux à la fois. On prend une poignée d'eau, et on fait rentrer l'eau à la bouche, et en même temps on fait rentrer au nez. On met dans les deux à la fois, on aspire par le nez, ensuite on jette ce qu'il y a dans le nez, ensuite on jette ce qu'il y a dans la bouche. Ensuite on se lève le visage trois fois. On se lève les bras jusqu'au coude ou plus, au moins au coude. Mais si c'est plus, tu as un ajr plus, moitié du coude. Tu fais monter, ensuite tu fais les cheveux, tu vas et tu reviens. Tu reviens, si la femme a des cheveux longs, elle s'arrête. Question de cheveux, quand elle va comme ça, marche arrière, elle s'arrête juste sous le cou. C'est pas la peine de descendre, si elle a des cheveux par exemple, qui descendent jusqu'au dos. Oh, elle s'arrête juste là devant le cou, ensuite elle revient vers l'avant, ensuite c'est pas la peine de changer d'eau, mais si tu changes, ça se fait. Mais de préférence, si tu changes, tu changes seulement une fois ou deux. Hein. Pardon. Salam alaikum. Naam, masmatullah. C'est le darsullah. Je disais que quand tu reviens tes cheveux, tu vas directement à tes oreilles. Si tu changes d'eau, ça se fait. Mais la plupart, ce que faisait le prophète sallallahu alayhi, c'est qu'il ne changeait pas d'eau. La même eau qu'il a prise pour faire les cheveux, quand il revient, il descend directement aux oreilles. Il fait rentrer les deux index. Les deux index, il les fait rentrer dans les trous là des oreilles. Il essuie les trous. Ensuite, il essuie un peu plus haut, il y a deux autres trous. Ensuite, il essuie le tour des oreilles à l'intérieur des oreilles. Il y a le tour comme ça, le tour. Ensuite, ça c'est avec les index. Ensuite, il fait sortir ses deux index et avec les deux pouces, il s'essuie les deux oreilles par l'extérieur. Il touche ses oreilles avec les deux pouces comme ça par l'extérieur et il fait monter du bas, c'est-à-dire où on met les boucles d'oreilles à l'extérieur et commence à monter jusqu'en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête là, il reste les pieds, il ne les touche pas. Il s'arrête là. Ensuite, il commence à jeter de l'eau sur sa tête. Il ouvre la douche avec une fourche, commence à faire descendre l'eau. De préférence, il fait le côté droit de sa tête, ses cheveux, de préférence. Ensuite, le côté gauche. Ensuite, il descend. L'eau est en train de couler du haut. Et moi, je suis en train de, avec ma main, de faire marcher l'eau, une sorte de massage. Je n'oublie pas de mettre mes mains sous mes aisselles. Car des fois l'eau ne va pas toucher sous mes aisselles. Ensuite, je fais descendre l'eau comme ça avec mes mains à chaque fois. Sur mes mains, sur mes cuisses, je fais descendre l'eau. Ensuite, je fais avec mes mains derrière les genoux. On plie les genoux, des fois l'eau ne rentre pas là-bas. Je fais comme ça avec mes mains. Ensuite, je fais mes deux mains comme ça derrière mon dos pour être sûr que j'ai touché partout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne un peu. Je fais arrêter l'eau qui coulait d'en haut et j'ouvre. Si j'ai un robinet en bas, j'ouvre le robinet d'en bas pour faire mes pieds. Je termine avec mes pieds. Je n'oublie pas de faire avec l'auriculaire le petit doigt. Je le fais rentrer entre mes orteils quand je suis en train de me laver les pieds. Ensuite, je sors et je vais faire la prière. Et je vais pas faire la prière. D'après, il y a une chaque... Ça dépend. Une... Donc je disais... Là, c'est pas la peine de refaire le wudu. Là, c'est pas la peine de refaire le wudu pour faire la salat. Car le petit wudu est rentré sous le grand. Min bab, min diraj al-adna taht al-a'la. Donc ici, le petit wudu, là, il est rentré sous le grand wudu. D'ailleurs, tu as fait le petit. Tu as commencé avec le petit et tu as terminé l'épine avec le petit. Mais il y a des choses que je voudrais j'allais dire ici pour que terminer le dos. C'est surtout ça a rapport avec surtout avec la femme. Quand ça a rapport avec la femme, ce n'est pas seulement la femme qui doit être intéressée. L'homme aussi. Pourquoi? Il y a des gens qui vont te demander demain, ils disent celui-là c'est un talbain. Quand je vais lui demander, est-ce que la femme quand elle a les menstrues, ceci, cela? Ah, tu vas le rester par aller demander aux femmes. Donc tu n'es pas un talbain. Talbain, tu dois gagner tes vertueux à ce que tu comprennes toutes les choses si c'est possible. Le maximum de choses. Deuxièmement, demain, tu es boué, Inch'Allah Ta'ala, te marier. Ta femme, c'est pas sûr qu'elle soit un talibain. Donc, elle va avoir des problèmes, c'est toi qui vas lui montrer. Si tu n'as pas étudié cela, comment tu vas savoir? Troisièmement, pourquoi c'est intéressant aussi pour l'homme? Parce que quand tu étudies les mentions ou des choses qui ont rapport avec la femme, tu as un ajr, car tu es dans une adoration. L'adoration qui est en train de faire une adoration, c'est talbain. Et talbain, il n'y a pas des choses, si tu les entends, c'est bien, tu les entends pas, ça ne fait rien. C'est pas talbain. Donc, premièrement, awalan, la farq bayna ghusl al-mar'a wa ghusl al-rajul ghayra annahu. Il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme quand ils se lavent, sauf ce que je vais dire. Une femme et l'homme se lavent de la même façon à 100%. Ils commencent exactement comme j'ai dit et ils terminent par les pieds. Sauf ce que je vais dire. Awalan, laysa al-mar'a an tanqudha dhafiratan li ghusl al-janaba. La femme, quand elle va faire le lavage majeur, ou bien elle le fait à cause de la djanaba, elle a eu des rapports avec son époux, ou bien elle a vu quelque chose dans les songes, ou bien elle va le faire à cause des menstrues purification, ou bien à cause des logis purification. Maintenant, quand elle va le faire à cause de la djanaba, à cause des rapports avec son mari, elle n'est pas obligée d'ouvrir les nattes si elle a des nattes, si ses cheveux sont des nattes, sont nattées, ce n'est pas obligé qu'elle les ouvre quand elle fait le lavage de la djanaba. Je dis bien la djanaba, le lavage des rapports et non pas le lavage des menstrues ou bien des logis. Pourquoi? Hadith Salama radiallahu ta'ala anha, qalat, elle a dit, qultu ya Rasulullah. J'ai dit, elle a dit au prophète Salama, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au prophète, inni imra'atun ashuddu dhafara ra'si. Je suis une femme qui tient mes cheveux en nattes. Il y a beaucoup de femmes qui, presque toute leur vie, elles ont les nattes sur la tête. Ata anquduhu li ghusli janaba, si maintenant je vais faire le lavage majeur à cause de la janaba, à cause des rapports. Est-ce que je dois ouvrir les nattes? Qala la. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, non. Non, ça te suffit, impureté sexuelle. Non, ça te suffit de que tu fasses trois fois comme ça sur ta tête. Summa, tu fais bien avec le mafatatwarin. Ensuite, tu jettes l'eau sur toi, ça te suffit. Donc, seulement trois fois comme ça sur ta tête et tu fais passer les nattes dans tes mains. Tes mains qui sont mouillées parce que tu as jeté de l'eau sur ta tête. Ensuite, tes mains sont mouillées. Tu fais les passer tes nattes dans tes mains. C'est difficile à dire. C'est comme par exemple quelqu'un qui va grimper une corde. Qu'est-ce qu'il fait? Il te passe la corde dans ses mains, hein, pour grimper. La même chose, elle prend les nattes et elle les fait rentrer dans sa main comme ça et elle ressort ses mains de l'autre côté. Ça veut dire elle fait passer ses nattes dans ses mains. C'est compris, Inch'Allah. Sa main, elle la ferme, ensuite la natte va rentrer entre le pouce et entre le pouce et l'index, et elle va faire sortir ses mains. Ensuite, il y a un autre hadith qui est sahih. Celui-là, bien sûr, c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih, comme j'ai dit. Ensuite, il y a un deuxième hadith. An Umayr ibn Umayr, qala. Il y a un compagnon qui a dit, ou un tabi'i qui a dit, balagha Aïshata, anna Abdullah ibn Amr, ya'muru al-nizayda, ikhtasna, ni khudna rousuhan. Aïcha, radiyallahu ta'ala, anna la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait sûrement comment on se lave de l'impureté sexuelle et des menstrues mieux que les hommes, parce qu'elle était avec le prophète, elle dormait avec lui, il la voyait quand elle se lavait. On lui a dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhu, un grand sahabi, qui ordonnait aux femmes que quand elles se lavaient, elles devaient ouvrir les nattes. شوف يا لادي يا عجبا لابن عمرو هذا سلام الخبر يا عجبا لابن عمرو هذا je suis étonné de ابن عمرو هذا je suis étonné de cette personne لقد كنت عفوا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن c'est étonnant cet homme là il est étonnant il ordonne aux femmes de dénouer les nattes dénouer les nattes il leur ordonne أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن pourquoi donc ne va-t-il pas leur ordonner aussi de se raser la tête نعم tu lui dis toi ouvre les nattes qui lui aussi de se raser la tête ça veut dire que ça ne se fait pas لقد كنت أغتسل je me lavais moi ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد je me lavais moi et le prophète صلى الله عليه وسلم d'une seule bassine une seule Vous prenez, moi je prenais un peu d'eau, il lui prenait un peu d'eau. Dans un autre hadith, il faisait même un acte, il plaisantait. Chacun disait à l'autre, laisse-moi, tu m'as tout pris, laisse-moi, tu m'as tout pris. Ensuite, Alt, voilà, Azidu Alan, offrir à la Sifalat Ifrarat. Et je n'ajoutais pas à ce que, qu'est-ce que je faisais? Je versais sur ma tête trois versements. Je prends comme ça une casserole, je verse une fois, deux fois, trois fois, ça j'ai terminé là. Et celui-là, il dit, non, tu dois ouvrir les mains et tu dois laver les mains. Elle a dit, yani, ça c'est impossible. Donc, premièrement. Deuxièmement, يجب عليها نقض ظافرتها في غسل الحيض. Si c'est maintenant le lavage des menstrues ou bien des logis, elle est obligée, si elle a les nattes, de les ouvrir. Donc, je répète, à Janaba, elle n'ouvre pas les logis, les menstrues, elle doit ouvrir les nattes si elle en a. Si elle en a. Pourquoi ? Hadith Aisha radiallahu ta'ala anhu, elle a dit, Fa adrakani, le professeur Aslam est venu vers moi, Yom Arafa, j'étais à Arafat al-Hajj, wa ana ha'id, j'étais en monstre. Il est venu vers moi, tashakawtu ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai dit ce qui s'est passé, voilà, c'est-à-dire je suis indisposé. Il a dit, da'i umratak, da'i umratak, laisse ta umra, wanfoudi ra'sak, et dis-nous tes nattes. Tu as des nattes à l'eau, tu les ouvres. Ouvre tes nattes. Wam tachiti. Coiffe-toi. Wa hilli bil hajj. Laisse la omra et dis, je commence maintenant le hajj. Le bayk Allahumma hajj. Laisse la omra. Donc voilà une preuve que quand c'est les menstrues, elle doit, avant de se laver, elle doit quoi? Elle doit ouvrir ses nattes. Troisièmement, voilà, j'ai dit, il y a quatre choses qui différencient le lavage de la femme par rapport à l'homme. La première des choses, elle n'ouvre pas les nattes dans la djanaba. La deuxième, elle ouvre dans les menstrues. Troisièmement, istihbab isti'mal al-muhtasila bin al-hayd firfatan min misk mawdi' ad-dam. Il est conseillé à la femme, quand elle se lave des menstrues, de prendre par exemple un peu de coton, de le mettre dans un peu de parfum, et de le mettre dans l'endroit où il y a eu du sang. C'est conseillé, c'est une sunna, si tu l'as fait, tu as un ajra, si tu l'as fait, tu as un ajra, de mettre dans un coton un peu de parfum qui donne une bonne odeur, et de le mettre dans la place où le sang est sorti. An Aisha radiallahu ta'ala anha, Anna Asma, c'est sa sœur bien sûr, c'est sa sœur radiallahu ta'ala anha, Afoun, ici dans le livre, il a dit c'est une autre Asma, c'est pas sa sœur. Asma bint Shakl, parce que Aisha radiallahu ta'ala anha a une sœur qui s'appelle Asma, leur père c'est Abu Bakr, mais ce n'est pas la même mère. La mère de Asma, c'est une mouchrika, une mécréante, et la mère de Aisha c'est Ummu Roman. Elle s'appelle Ummu Roman, donc c'est sa sœur de mère seulement. Pardon, sa sœur de père. Elles ont le même père. Mais celle-là, Asma, c'est une autre. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est Atul Nabi sallallahu alayhi wa sallam an ghusl al-mahid. J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le lavage des menstrues. Faqal, il a dit, ta'khudu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahar. Il a dit que chacune de vous prenne l'eau, prenne un peu d'eau, il y en a qui lui suffit, et sidra, maintenant, on n'emploie plus sidra, les sidra sont des feuilles, j'ai dit une fois, qu'on met aussi pour enlever la sorcellerie, etc. On m'a donné une fois le nom en français. Ça s'appelle sidra, il y en a beaucoup dans les pays chauds, il y a en Algérie, etc. Pour, on prend cette feuille, on les met pour enlever la sorcellerie, comme c'est écrit dans Fath al-Bari. cette cidra, cette, ces feuilles vertes, si tu les mets dans l'eau, pourquoi? Ils vont donner une couleur verte à l'eau et ça purifie vite. Ensuite, il a dit, elle se purifie, ça, tuhsin at-tahur, elle se purifie bien. Summa tasubu ala ra'siha, ensuite elle jette de l'eau sur sa tête et sur ses cheveux. Fatadlukuhu dalkan shadidan. Fatadlukuhu dalkan shadidan. Donc la femme a fait du gibi, barakallahu fik, fait du gibi. Jazakallahu khairan. Regardez ici, il a dit, quand la femme se purifie des menstrues, elle se lave. Elle lave ses cheveux, elle a dit, elle met les mains bien dans son droit, dans sa tête, ses doigts, pardon, elle commence à bien frotter sur sa tête pour être sûre que ça a bien touché toutes les parties. Regardez la différence entre quand elle fait la janaba, elle n'ouvre pas les mains, elle jette seulement comme ça, trois fois sur sa tête, et elle fait le corps. Quand pour les menstrues, non, elle ouvre les mains, et encore, et après les avoir ouverts, elle met l'eau, elle jette de l'eau sur sa tête et elle commence à mettre comme ça avec ses doigts. Elle fait des massages dans sa tête. Alayhi salatu wassalam, il a dit, Dalkan shadidan. Ça s'appelle sidrikol aussi. Naam, jazakallahu khayran. Donc, shadidan, hatta tibluha shu'una ra'siha. Jusqu'à ce qu'elle touche le fond de sa tête. Yani sa tête, c'est pas seulement les cheveux. Elle touche la tête en bas. ثم تصب عليها الماء ensuite elle se jette de l'eau sur elle et ensuite voilà ثم تأخذ فرصة ممسكة ensuite elle prend un morceau de coton ou n'importe quelle chose maintenant notre temps la meilleure chose c'est les cotons le coton elle prend un peu de coton parfumé فتتطهر به et qu'elle se purifie avec فقالت أسماء la femme qui avait demandé la question quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu il lui a dit quand elle termine la douche, elle prend un coton, elle le parfume, elle met dans l'endroit là. Elle a dit, comment je fais? Pardon, Salim. Non, il n'a pas dit encore le prophète, pardon, il ne lui a pas dit, c'était le titre seulement. Il a dit, elle lave bien ses cheveux, ensuite elle jette l'eau sur son corps. Il lui a dit, quand tu termines, tu prends un peu de coton, tu lui mets un peu de parfum, misc, ensuite tu te purifies. Il a dit comme ça, tu te purifies. Elle n'a pas compris, elle a dit, bien sûr, on ne peut pas comprendre. Je te dis, prends un morceau de savon, enfin d'autre coton. Tu mets un peu de parfum. Tu ne sais pas, tu me dis où je le mets. Peut-être, je me masse le corps ou là, qu'est-ce que je fais? Elle lui a dit, comment je fais? Faqala, subhanallah. Tataharina biha, subhanallah. Le professeur Sam n'aime pas parler beaucoup dans des choses comme ça. Yani, subhanallah, c'est pas une impasse, astaghfirullah. Le dinaga, on parle, on doit le montrer. Il a honte. Il a honte, il est très pudique, il a honte. Donc quand il a dit ça, elle n'a pas compris. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه كأنها تخفي ذلك. Ensuite Aïcha lui a dit à cette femme en cachant, yani sans que le prophète Islam ne l'entende. Elle a dit, اتبعين أثر الدم. Tu suis, yani d'où le sang a coulé. Celle-là, ça veut dire que tu le mets dans le membre d'où le sang a coulé. Afin que cet endroit n'est pas une mauvaise odeur. Afin que cet endroit n'est pas une mauvaise odeur. وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَبَةِ Ensuite, elle lui a dit, comment on fait pour la janaba quand on se lave? Il a dit, elle prend un peu d'eau, فَتَطَهَرْ, elle se purifie, فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ, elle se purifie bien, ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا, elle jette de l'eau sur sa tête, فَتَدْلُكْ, حَتَّى تَبْلُغْ شُؤُونَ رَأْسِهَا, ثم تفيض عليها الماء ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة كسكلا دي عائشة رضي الله تعالى عنها قال دي نعم النساء نساء الأنصار les meilleures femmes ce sont les femmes des Ansar celle-là c'est une femme des Ansar celle-là Esma qui a posé la question elle a dit نعم النساء نعم نساء الأنصار pourquoi elle a dit ça Aïcha pourquoi elle a dit ce sont les meilleures femmes ce sont les femmes des Ansar pourquoi parce que elle passait la nuit avec la télévision, en train de voir des films jusqu'au matin. Sûrement, c'est pas pour ça. Pourquoi alors? Je vais vous dire pourquoi. Elle a dit, لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Non, hadith kharaj au muslim. Elle a dit, la honte et la pudique ne les empêchaient pas d'apprendre le din. Non, c'est ça, quelqu'un qui est sincère. penser quelque chose, de dire quelque chose, comment adorer Allah, quelque chose, comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas honte. Je voudrais apprendre et lui poser mes questions. Je ne reste pas comme ça, il est très ignorant. Bien sûr, il y a des façons de demander. On n'emploie pas les mots vulgaires. On emploie les mots comme ça, Yannick, que lorsqu'on les entend, ça peut passer. Il y a des mots, là, pour dire la même chose, tu peux employer un autre mot qui est très vulgaire. Le prophète Sassam ne faisait jamais cela. Donc Aïcha a été très contente. Voilà, elle a dit, les vraies femmes, elles n'ont pas honte de connaître la religion et demandent au prophète Sassam, Yannick, des choses comme ça, Yannick, spécialement pour les femmes, elles n'ont pas honte. Maintenant, tu trouves quelqu'un, tu parles de monstrueux là, dans le din, en train d'apprendre des gens, il te dit par exemple, subhanallah, aïb, pourquoi tu parles cela? Ça se fait pas, aïb. Ah, c'est aïb, hein? Comment qu'on dit aïb en français? Écrivez-moi le mot d'abord, comment qu'on dit aïb? Dit quelqu'un, il dit aïb, je crois que c'est mal élevé ou là. Impoli. Non, impoli, hein? Honteux. C'est aïb, c'est impoli. Ça se fait pas. Ah, c'est ça se fait pas. Maintenant, c'est honte, hein? C'est honteux, c'est impoli quand tu parles de j'apprends aux gens le din. Mais toi, qui dis c'est impoli, c'est pas impoli quand tu restes, toi et tes enfants, et vous voyez le film, hein, et l'homme en train d'embrasser la femme, c'est pas impoli ça. Tu vois ça devant tes enfants, et devant ta femme, et tu n'as pas honte. Et tu vas avec ta femme voir des choses beaucoup plus graves. Tu n'as pas honte, ni tu n'es jaloux, ni tu as honte d'Allah Azzawajal qui te voit, ni tu es jaloux devant ta femme qui voit les choses de l'homme. Ada, tu n'as pas honte. Ah, ça ne fait rien, Ada. C'est pas impoli, Ada. Mais si on parle dans le dit, la religion, on apprend aux gens, ah, toi, pourquoi tu dis ça? C'est impoli. C'est impoli, hein. Où il faut parler, ne pas être là, ça c'est impoli. Et où il faut y aller se lever, ne pas rester voir, là, ça ne fait rien, on voit, et c'est poli. Non. Quatrièmement, la dernière des choses, et j'arrête, la dernière des choses. La yajib ala al-mar'a idha ihtasalat min janaba aw hayd ghasla dakhil al-farj fi asah al-qawlayn wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Il a dit, quatrièmement, la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme, quand elle se lave de le lavage hadak de la janaba, lavage de la janaba, ou bien le lavage des monstrues, il a dit, ce n'est pas obligé qu'elle se lave à l'intérieur de son membre. J'ai dit, à l'intérieur de son membre, elle met du coton avec du parfum. Mais quand elle est en train de se laver, elle n'est pas obligée de rentrer sa main à l'intérieur. Car il y a des ulama, et certains ont dit elle doit, certains ont dit elle ne doit pas. Ici, celui qui a écrit le livre, il dit, le plus juste, c'est que ce n'est pas obligé qu'elle le fasse. Ensuite, il a dit, قال الشيخ الإسلام بإم تيمية وإن فعلت فهو جائز. Ce n'est pas obligé, c'est le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui dit ça. Il lui a posé la question, la femme elle se lave, elle doit rentrer ses mains ou la sa main ou la son doigt. Il a dit, ce n'est pas obligé. وإن فعلت جائز. Mais si elle fait, c'est pas interdit. Faut bien que vous compreniez. Ce n'est pas, Cheikh, j'ai pas très bien compris, pouvez-vous expliquer là. Je répète. Quand la femme se lave à cause de la janaba ou bien à cause des monstres, elle est en train de se laver, elle n'est pas obligée de rentrer sa main à l'intérieur pour laver à l'intérieur. Elle n'est pas obligée. L'essentiel, c'est par extérieur, ce n'est pas par ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça veut dire, c'est pas possible. On a demandé à Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, on lui a demandé, est-ce que c'est obligé? Il m'a dit non, ce n'est pas obligé, c'est permis. Yani, quand on dit c'est obligé, on va revenir au dars de tout à l'heure. Ça veut dire que celui qui ne fait pas, il va avoir un ithm et il va rentrer en enfer. Nous on dit non, ça ce n'est pas obligé. Si elle le fait, c'est permis, elle peut le faire. Ensuite il a dit, celui qui a écrit le livre, Awaisha a dit, Nam, il a dit, j'ai demandé à Sheikh Al-Albani, qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Taymiyyah a dit, c'est permis, elle fait ou elle ne fait pas. Cheikh Al-Albani a répondu, Naam, c'est permis, ta nafdofen, la tadayyunan. C'est permis, ta nafdofen, la ta'aboudan. Regardez les grands ulama, comment ils comprennent ce que disent les ulama. Cheikh Al-Albani a dit, quand Ibn Taymiyyah dit c'est permis seulement, c'est pas obligé qu'elle rentre sa main, ça veut dire c'est permis dans le sens de yani pour tanazzufan, pour comment on dit un ordre de nafsi, tanazzufan, comment on dit je me lave yani ça, quand quelqu'un est sale, quand quelqu'un voilà, tiens, nettoyer, jazakallah khair. C'est permis pour nettoyement ou le nettoyage. C'est permis pour se nettoyer et ce n'est pas une adoration. C'est pas parce qu'Allah a dit de faire cela. Donc moi, quand la femme veut mettre sa main, c'est pas parce que c'est une ibadah, c'est une adoration. Mais c'est juste pour se nettoyer. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Vous préparez vos questions Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui Inch'Allah trois fois je ne répondrai à aucune question qui est hors du dars. Pourquoi? Parce que je laisserai ça à je vais faire un cours spécialement pour les questions réponses sans faire de dars. Aujourd'hui seulement je réponds Inch'Allah à ceux qui ont quelque chose avec le dars, soit ce dars soit celui tout à l'heure, c'est quoi le haram, l'illicite, l'obligé, etc. Voilà ce que je vais répondre, c'est tout. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre inchallah ta'ala dans 5 à 10 minutes. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Sout. Tayyib, natafawwal fa jazakallahu khayran. On commence par Abu wa Ummu Lina. Avant de poser la question, chauffe mes chers frères et sœurs. Maintenant, il y a une ou deux qui m'ont posé la question, la même question. Yannick, que c'est pas possible. Comment se fait-il? Comment peut-elle se laver la femme à l'intérieur? Ce que je viens de dire, que les ulama ont dit que c'était pas la peine de se laver à l'intérieur. Yannick, il y en a qui ont dit que c'était pas possible. Moi, je voulais dire, quand elle se lave à l'intérieur, yannick, par exemple, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de sang. Abu Anas a dit, il n'y a pas de sang. Non. Abu Anas, jazakallahu khairan. Je te donne, Inch'Allah Ta'ala, pas à toi, à tout le monde, je donne une nasiha, barakallahu fikoum. Quand quelqu'un sent qu'il n'a pas de sang, il croit qu'il n'a pas de sang, il demande à ceux qui n'ont pas de point rouge, il leur demande est-ce qu'il y a du sang. Parce que quand il écrit comme ça, moi je m'arrête et je commence à poser les questions. De préférence, Inch'Allah Ta'ala, tu demandes à ceux qui n'ont pas de point rouge, et ils te répondent. Regarde ici, tous ils ont dit qu'ils ont du sang. D'ailleurs, j'ai oublié, peut-être on parlait dans le lit, s'il ne m'entend pas. Je voulais dire que, Naam, ce que voulaient dire les ulama par là, ça se coupe. Si ça se coupe, je sors et je reviens. Si ça se coupe, je sors et je reviens. D'accord. Alhamdulillah. Donc, yani, ce n'est pas la peine, quand la femme est en train de se laver, après s'être lavée auparavant, elle s'est lavée par devant, par arrière, elle a commencé à tout faire. Ensuite, maintenant, elle arrive à cet endroit. C'est pas la peine, par exemple, de rentrer son doigt. C'est pas la peine de rentrer son doigt pour se nettoyer à l'intérieur. Voilà ce que veut dire les ulama. C'est pas en lave. Seulement, par exemple, c'est pas la peine de faire rentrer son doigt pour se laver à l'intérieur. Voilà. Voilà ce qu'ils veulent dire par cette chose-là. Alhamdulillah, c'est qui barakallah. Maintenant, tfadal akhi Abu Umulina, tfadal, je t'ai enlevé le point rouge, tfadal. Ya Rabbi, sahil, ya Rabbi, a'in. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa sallam. Doit-on se laver sous les ongles? Est-ce wajib pour l'état de Janaba? Non, ce n'est pas obligé, ça rentre même dans la bid'a. Tu ne cherches pas sous les ongles si l'eau est rentrée ou elle n'est pas rentrée sous les ongles. Il doit rentrer. Car quand tu prends de l'eau avec tes mains, ensuite tu fais le wudu, ensuite tu grattes tes cheveux, etc. L'eau a touché toutes les parties qu'il y a sous les ongles, Inch'Allah Ta'ala. En principe, vous devez savoir qu'en islam, on ne doit pas laisser homme ou femme. On ne laisse pas les ongles plus de 40 jours. Surtout pour ceux qui les laissent à cause d'eux pour ressembler aux kafirettes, surtout les femmes si elles laissent les ongles à cause de, par exemple c'est la mode, toutes les femmes, les actrices, toutes elles ont les ongles, donc moi j'ai honte sans les ongles. Celle-là elle va faire deux péchés, les avoir laissés plus de 40 jours et de s'être fait ressembler aux kafirates. Et le deuxième, s'être fait ressembler aux kafirates, c'est beaucoup plus grave, bien sûr, que de laisser les ongles. Om Hajar, tafadali. Wa alayki salam wa rahmatullah wa barakatuh wa khairatuh. Tafadali, quelle est la première question? Connaissez-vous cette règle? Dans la dunya, tout est moubah, sauf si un dalil l'interdit. Et dans le din, tout est haram, sauf si un dalil autorise. Si vous pouvez me rappeler qu'il a dit, l'expliquer rapidement, par exemple, dans les deux cas. Naam, c'est en arabe, on dit, l'asl, fi l'ibadat, التحريم حتى يأتي دليل الأصل في العبادة التحريم حتى يأتي دليل الأصل في العبادة جدي التحريم كيف تفعله؟ تفعله كو les adorations les ordres, la règle dans les adorations c'est que tout est interdit sauf si on a un دليل الأصل في العبادة الملا parce que si quelqu'un par exemple va faire une prière spéciale ou là quelque chose ou là on va lui dire tu vois pourquoi tu fais ça, il peut pas dire c'est permis, on lui dit non, ça c'est une adoration ce que tu fais, c'est la salat, c'est la zakat, c'est le siyam, tu dois donner un dalil parce que la na'bud illa Allah wa la na'buduhu illa bima shara, nous on n'adore que Allah et on l'adore que avec quoi, avec sa sharia, avec ses lois, lui avec son Coran, avec sa sunna du prophète. Où est le dalil que ce que tu fais, ça vient du Coran, ça vient du Sunna. Donc, l'asr fil ibadat, tahrim ou l'mana. Ou l'asr fil ashiyal ibaha. Et dans toutes les autres choses, par exemple, ce que tu veux manger ou là, tout ça, c'est quoi? C'est permis. Sauf avec un dalil. Sauf parce que l'Azul a créé le monde spécialement pour nous. Spécialement, on est un na'am fihi, on est un rizqih. Il a dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, spécialement pour vous, pour que tu manges tout est possible de manger. Sauf si, dans un cas où il y a un hadith ou un verset qui dit, attention, il ne faut pas manger par exemple cette chose-là, il ne faut pas boire cette chose-là. Donc c'est le contraire. Dans les adorations, tout est haram, tout est illicite. Sauf pour celui qui a un verset ou un hadith. Et dans la vie, les autres choses, yani l'ashiya, toutes les autres choses, tout est permis, sauf celui qui a un hadith et un ayah qui dit ça c'est haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala, alim wa hakim. Muslim kola tafad. Pardon, et la deuxième question. Est-ce qu'une chose permise, faite avec exagération, goulou, peut devenir haram? Ils ont trop mangé, non pas pour la cause d'Allah, ou mon lit de cause d'argent, dans les vêtements, Naam, toute chose qui dépasse, yani, ça peut rentrer où? Ça peut rentrer dans le haram et ça peut rentrer dans le makruh quand elle dépasse la limite. Ça dépend ce que c'est. Par exemple, si quelqu'un mange, ensuite il exagère dans le manger, il mange trop, celui-là, mubalara, naam, mubalara, l'exagération, celui-là, par exemple, dans le manger, il peut rentrer dans le haram. Pourquoi? Parce qu'il peut manger beaucoup, jusqu'à tomber malade, peut-être ça lui arrive quelque chose, une coulée, il meurt. Celui-là, il est rentré dans le haram. C'est pourquoi il y a un hadith sahih d'un compagnon, j'ai oublié qui c'est, le hadith, l'Albani l'a authentifié, où un compagnon a dit à son fils, il lui a raconté, il lui a dit hier, voilà, j'ai mangé ceci, c'est, j'ai mangé beaucoup. Il lui a dit, si tu étais mort hier, l'omitta bechamel, je ne serais pas venu à je ne serais pas venu yani, à ta, yani, pour la salat, la prière de la janaza, etc. Je t'aurais pas enterré, ce serait pas moi qui t'aurais enterré, je ne serais pas venu à ton enterrement si tu étais mort hier. Pourquoi? Parce qu'il avait trop mangé. La même chose, on commence à dépenser, ensuite on sort de la limite, on devient le frère de qui? Du shaytan. Inna al-mubaddirina kanu ikhwan shayatin. Allah a dit, ceux qui dépensent comme ça, yani, en plus là, sans que ça soit la chose à dire nécessaire, ça, ils deviennent les frères de qui? Les frères des diables, les frères des shayatins. Wallahu ta'ala alam. Muslim Kola tafaddal barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullah al-jami'a. Wa anta aydan Muslim Kola. Wa anta aydan Abdullah Mustash. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Concernant le fait de ne pas raconter son cauchemar à son frère, Muslim. Naam. Concernant le fait de ne pas raconter son cauchemar à son frère, Hisn al-Muslim. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire ici, Hisn al-Muslim. Alors, ça veut dire que tu l'as lu peut-être dans Hisn al-Muslim. Ça, peut-être que tu l'as lu dans ce livre. Est-ce une sunna obligatoire ou juste des conseils? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fallait pas raconter cela, il fallait pas raconter cela à n'importe qui. Attendez, à quelqu'un qui boit ici. Pardon, il m'a écrit quelque chose. نعم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لم يذكر أنه كان يفعله دائما. نحن نتكلم عن من هذه هي عادته. هذا فعله مرة شابعة حتى لم يجد له مساء كما في البخاري. نعم لكن لم يفعله دائما. هذه فرصة يعني أتته. فنعم في كبار الله فرصة يعني أتته لم يفوت على نفسه. نعم. Je disais que نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم quand il dit quelque chose. La règle, c'est que s'il dit ne faites pas quelque chose, c'est que c'est haram. C'est ça la règle qui est au sol fiqh, dans les bases du fiqh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, ne la faites pas, la règle c'est que c'est haram. Sauf si on a ce qu'on appelle qarina, on a quelque chose qui montre que ce n'est pas haram. Si on a quelque chose qui montre que ce n'est pas haram, on dit que ce n'est pas haram. Donc ici on a un nahi. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faut pas faire. Donc, la règle c'est qu'on dise que c'est haram si tu dis à quelqu'un. Sauf s'il y a une karina, sauf s'il y a quelque chose qui montre que ce n'est pas haram, yani tasrif an-nahy min tahrim ila madha ila al-karaha. Et ici comme karina, ici la chose qui montre que ce n'est pas haram, c'est que Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah a dit in al-qara'in sarifa min al-tahrim ila al-karaha idha kana an-nahy fi al-ashya' allati laysa laha dakhl fi al-ibada. Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit dans une règle que s'il y a quelque chose d'interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cette chose n'est pas adoration pure, ibadah mahd, ça veut dire qu'il te dit par exemple il ne fait pas ceci, il y a une question de dormir, il ne fait pas ceci, question de passoire, il ne fait pas. Là il dit ça devient makruh. Comme dans ce cas ici, pourquoi il t'a dit de ne pas raconter? Car il faut que tu aies confiance en Allah Azza wa Jal et que tu aies confiance en ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il t'a dit que elle ne va pas te faire de mal, ce cauchemar ne va pas faire de mal, il faut que tu aies confiance. Classe. Le fait que tu commences à raconter, tu vas ouvrir une porte au shaitan. Il va dire, voilà, il n'a pas cru au hadith celui-là. Donc il a peur que ça se fasse quelque chose. Khalil aujourd'hui aussi, je vais lui venir ensemble, je vais lui faire des machakil et des problèmes. Donc toi ici, tu combats le shaitan. Tu as envie de raconter, tu ne racontes pas. Tu craches trois fois, tu dis Adoulaj Taradim trois fois, et tu laisses ça, tu l'as effacé. Le songe est effacé. Comme il y a un compagnon de Jalil qui disait Wallah, avant de connaître ce hadith, qui disait qu'il ne fallait pas raconter, ça va s'effacer. Si tu craches trois fois à gauche et tu fais les doigts, il a dit Je vivais l'enfer, je vivais le calvaire. Et c'est après que j'ai connu ce hadith, alhamdoulilah. Maintenant, il disait Je restais des mois malade, j'avais peur si ce songe allait s'exaucer. Il a dit maintenant que je connais le hadith, dès que je vois, même si je vois des gens en train de me courir, moi je dis à sa place, hein, ça veut dire même si je vois des gens en train de me yani, couper avec des couteaux, ils me coupent comme ça, ils m'ouvrent le ventre, je me lève, je fais trois fois les crachats, je garde le stage trois fois et je ne raconte à personne et je suis Inch'Allah, non seulement sûr mais archi sûr que rien ne m'arrivera. Et même moi d'ailleurs qui vous raconte ça, j'ai vu des centaines de fois des choses qui font très très peur, alhamdoulilah, elles ne sont jamais arrivées. Wallahu ta'ala alam. Mohamed 054, tafadlan. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tafadlan. Est-ce celui qui fait un acte détestable a un péché ou une diminution de la valeur de son acte d'adoration ou rien du tout? Akhi Mohamed 054, ça veut dire que tu n'étais pas peut-être avec nous. Quand j'ai expliqué et j'avais cru que tout le monde avait compris. Lakin, Inch'Allah ta'ala, je répète. Quand quelqu'un fait, chauffe, je te dis pas, c'est toi qui après tu vas juger. Je t'apprends la règle seulement. Ça, ce sont des règles. Quand tu apprends les règles, tu as les clés dans la main. Ensuite, c'est toi qui ouvres les portes. C'est quand tu vas apporter un couffin ou un sachet plein de poissons à quelqu'un. qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as nourri un jour, tu l'as nourri un jour. Mais quand tu prends cette personne avec toi à la chasse et tu lui apprends comment chasser, ensuite tu la nourris tous les jours. Et quand c'est toi qui lui donnes un poisson, tu la nourris un jour. Moi je te donne les clés, Inch'Allah tu juges. J'ai dit que le détestable, quand quelqu'un le fait, même s'il le fait exprès, il n'a rien, il n'a pas de ism. Et ça n'enlève rien, ça ne diminue rien de son acte ni de rien. Quand il le fait, ça ne diminue rien. Mais par contre, s'il ne le fait pas avec l'intention de ne pas le faire à cause de Allah Azza wa Jal, il a des hasanat. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, tu as compris. D'accord, jazakallah khair, c'est une règle générale, applique-la. Si tu fais quelque chose de détestable, alhamdoulilah, tu n'as rien. Mais si tu ne la fais pas, tu as conseillé nous des livres de base dans Usul Fiqh, barakallahu fikoum. Naam, il y a un livre très simple qui s'appelle Usul Fiqh al-Wadih. Il s'appelle aussi, il a deux titres, Usul Fiqh al-Wadih, et il s'appelle Usul Fiqh lil-Mubtadi'in, Usul Fiqh pour les débutants. C'est le kitab Nassif al-Aliman, Usul Fiqh al-Wadih, c'est Suleyman al-Ashqar, Mohamed Suleyman al-Ashqar, Usul Fiqh al-Wadih. Il s'appelle aussi Usul Fiqh lil-Mubtadi'in. C'est pour les débutants. Inch'Allah ta'ala, si on a du temps, Allah, peut-être on va faire un dars une fois par semaine pour Usul Fiqh. Car même quand tu liras ce livre, tu vas trouver un peu de difficulté. Mais je demanderai à Allah Azza wa Jal qu'il t'ouvre ton cœur pour que tu comprennes mieux, Inch'Allah ta'ala. Umsakina tafadali. Umsakina alaykum salam, salam, barakallahu makhiratu. Barakallahu fika pour ce cours. Je m'excuse pas avance, mais j'ai trois questions, Inch'Allah. Naam. Maintenant, elles sont comme les femmes des Ansar qui posent des questions. D'accord, alors profite. Je dis juste une précision au sujet du lavage des cheveux de la femme qui est en état de janaba. Doit-elle s'assurer que l'eau bien pénétrée porte dans la chevelure sans dessert, ses nattes jusqu'au crâne en frictionnant, ou doit-elle uniquement jeter d'eau travers sa tête? Et naam. Pour la première question, il y a deux ou trois hadiths qui disent les deux choses. Dans certains hadiths, s'il dit, elle jette trois fois sur la tête et ça suffit. Comme l'a dit Aïcha, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un autre hadith où il a dit, elle frotte un peu le crâne. Elle frotte un peu. Naam, le wadah fi usul fiqh. Est-ce que j'ai dit autre chose, moi? Est-ce que j'ai dit autre chose? J'ai dit le wadah fi usul fiqh. Ou usul fiqh lil mubtadi'in. C'est nefs al-kitab. Naam, wajmou usul fiqh. Le wadah fi usul fiqh. Je disais que pour... donc, si elle jette trois fois, ça suffit d'après hadith Aïcha radiallahu ta'ala. Mais si elle essaye de frictionner, c'est mieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a dit, elle frictionne. Ça, Inch'Allah ta'ala, c'est mieux. Au sujet du coton que l'on doit mettre à l'intérieur, peut-on utiliser du parfum à base d'alcool ou bien de muslim? Même le parfum à base d'alcool, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas interdit. Une seule demande, la salat 8 compte 1 ou 3 rak'at. La salat 8, elle commence à 1 rak'at, elle se termine à 13. De 1 à 13 rak'at. De 1 à 13 rak'at, et ça va venir, Inch'Allah Ta'ala, dans le chapitre la salat, Inch'Allah Ta'ala, avec plus de détails. Wallahu Ta'ala alam. Allah yajazik khayran min arab l'alamin. Abu Abdurrahman, tafadal. Salam alaikum wa alaikum. Je vous avais conseillé concernant les banques islamiques. C'était le lieu de faire les emprunts, soi-disant sans crédit. Comme ils le disent, et que vous êtes renseigné, barakallahu fikoum. Naam, je devais me renseigner, car je devais voyager, Inch'Allah Ta'ala. Normalement, je serais venu hier ou aujourd'hui. Mais je n'ai pas encore voyagé. Inch'Allah Ta'ala, je voyagerai, Inch'Allah Ta'ala, cette semaine. Donc, jazakallahu khairan, pardonnez. لأن الجواب كان نعم لأن الجواب كان معلقا بالسفر بارك الله فيك نعم عبد الله moi j'ai eu le livre je l'ai acheté ça fait peut-être 20 ans peut-être qu'il a changé le titre c'était écrit Usul Fiqh للمبتدئين ensuite je l'ai vu dernièrement Usul Fiqh al-Wadih peut-être qu'il a changé de titre peut-être نعم Hilal 1406 تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله est-ce que vos cours sont retranscrit par écrit ou enregistré pour que les absents puissent rattraper ses cours, Inch'Allah. Est-ce que le fait de remplir la baignoire pour faire son bain est-ce considéré comme du gaspillage ou est-ce permis vu que c'est bon pour la santé? En ce qui concerne les cours, moi, je n'enregistre pas et il n'y a rien d'écrit. Celui qui veut faire ça en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le fasse. Ensuite, il le donne aux élèves qui avaient l'habitude de suivre les cours, etc., pour se rattraper et réviser. Celui qui veut le faire, moi, je lui permets, à condition qu'il ne le vende pas. Qu'il ne le vende pas. C'est pas de la tijara. Il le donne en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque le fera, inshallah ta'ala, il aura un ajr, inshallah ta'ala. Le fait de remplir la baignoire pour faire son bain, ce n'est pas, inshallah, interdit. Ce n'est pas, inshallah, interdit, car premièrement, c'est bon pour la santé, et deuxièmement, quand quelqu'un est sale, quand il reste à l'intérieur comme ça de l'eau chaude, ça permet d'enlever la saleté beaucoup plus. Et c'est bon aussi pour les os, pourvu que, yani, on ne gaspille pas, oui, on ne fasse pas ça, yani, matin et soir. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ukhti Hasna, tafaddali. Salam alaykoum wa rahmatoullahi. Pouvez-vous me expliquer l'obligation personnelle, l'obligation de groupe? Naam, barak. Jazakillahu khayran, Ukhti Hasna, jazakillahu khayran. Abu Talib, alaykoum salam, wa barakatou. Astaghfirullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ukhti Hasna, je t'explique en arabe ou en français. Écris-moi F pour le français, A pour l'arabe. Il y a des gens qui aiment que ça soit en arabe, il y a des gens qui aiment que ça soit en français. Écris-moi F pour le français, A pour l'arabe. Je ne sais pas si l'Ukhti est avec nous ou bien elle a déconnecté. Ukhti Hasna, si tu m'as entendu, si j'explique en français, tu écris F. Si en arabe, tu écris A. Donc peut-être qu'elle a déconnecté. On attend, inshallah ta'ala, qu'elle revienne. Abu Mouad, tafaddal. Elle a dit en français. Naam. F, d'accord. Elle a marqué F, pourtant je ne l'avais pas vu. C'est maintenant seulement que c'est arrivé dans mon affiche. Non, c'était pas dans mon affiche. C'est arrivé seulement maintenant chez moi. Naam, c'est arrivé seulement maintenant chez moi. Tu disais, attends, je vais voir la question, c'était quoi d'abord? D'Allah ma chafa'ad. Naam. C'était quoi la question, indique hein? L'obligation personnelle et l'obligation de groupe. Naam. L'obligation personnelle, c'est toute obligation que chaque personne doit faire. Est-ce que la prière, quelqu'un peut la faire et d'autres ne la font pas? Non. Tous on doit faire la prière. Tous on doit jeûner. Tous on doit faire la zakat si on a de l'argent. Tous on doit quoi? Tous on doit aller au hajj si on a de l'argent et si on peut. Tous on doit faire, yani, beaucoup d'obligations. Hein? Tous on doit se marier si on peut. Tous, yani, c'est comme ça. Ça s'appelle obligation personnelle. Ça concerne chaque personne. Tous on doit obéir à Allah et à son prophète. Tous on doit obéir à nos parents. Ça s'appelle personnel. Maintenant, l'obligation du groupe, c'est que c'est une obligation. Si quelques-uns vont la faire à notre place, ça nous suffit. C'est une obligation qui n'est pas demandée à tout le monde. C'est demandé seulement à un groupe. Ça s'appelle kifaya. Si ce groupe, un groupe, deux, trois la font, ça suffit. Ça suffit. Ça s'appelle kifaya. C'est suffisant. Quand quelqu'un meurt, est-ce que tout le monde, les musulmans, tous les musulmans doivent le laver? Non. Ils le lavent un groupe. 3, 1, 5, ils le lavent. Pour l'enterrer, un petit groupe, 50, 60, ils vont au cimetière, ils l'enterrent. Ça s'appelle quoi? Une obligation de groupe. Ça veut dire, pourquoi c'est une obligation? Parce que s'ils ne l'enterrent pas, et s'ils ne le lavent pas, tous on va avoir des péchés. Tous. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait une obligation de groupe. Mais si quatre ou cinq ou six vont faire cette chose, cette obligation, tous les autres, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont échapper au quoi? Au ithm. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça à leur place. Et puisque les gens qui ont fait ça à leur place, ceux qui ont fait la chose elles-mêmes, ces quatre ou cinq, vont avoir des ajr, des hasanet, et les autres, nous qui n'avons pas fait avec eux, on ne va pas avoir de siyyat. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de groupe. Donc les obligations se divisent en deux. Obligation de personne, que chaque personne doit faire, et l'obligation de groupe, que yani, si quelques-uns font, ça suffit, inshallah ta'ala, pour les autres. Wallahu ta'alam. Si tu as compris, dis-moi. Si tu n'as pas compris, je répète avant de poser une autre question. Inch'Allah ta'ala, tu l'as compris. Naam. Jazakallahu khairan. Si, barakallahu fik. Abu Mu'ad, tafaddal. Abu Talib, alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh, maghfiratuh. Tafaddal, Abu Mu'ad. Abu Mu'ad, est-ce que tu es là? Barakallahu fik. Abu Mu'ad n'est plus là. Je sais pas pourquoi il est descendu en bas. J'ai pas compris. Youssef, tafaddal. Youssef le Médinois, tafaddal, barakallahu fik. Est-ce que tu as écrit quelque chose, Abu Mu'ad? Rien n'est sorti sur l'affiche. Sur mon écran, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un voit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Moi, je ne vois pas sur mon écran ce que Abu Mu'ad a écrit. Non. Naam. Naam, Youssef, tafaddal. Naam, il a dû écrire une longue phrase. Il doit couper les phrases. Youssef, akhi kalim, Youssef, n'écris pas quelque chose de long. Ça passe pas. Écris une phrase ou les deux et tu l'envoies. Ensuite, deux phrases, tu envoies. Et ainsi de suite. Naam, tafaddal, on t'attend, Inch'Allah ta'ala. Faut-il d'abord laver les parties des animaux, ensuite, bismillah pour le wudu. Naam, sah. Abu Mu'ad, c'est comme tu as dit. Tu laves les parties intimes. Ensuite, tu laves avec le savon, les mains. Ensuite, tu dis bismillah et tu commences le wudu. Tu dis bismillah et tu commences le wudu. Youssef, alaykoum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Tafaddal. Ça, c'est pas la peine de continuer. Fait-elle deux rousses ou bien un seul, sah? Fait-elle deux fois deux rousses ou bien un seul? C'est ça la question, ça? Naam, la plupart disent elle fait deux. La plupart des ulama dont j'ai lu leur livre, ils disent de préférence, ils font deux, de préférence. La plupart des ulama disent de préférence, ils font deux. Et il y a un hadith d'un hadith mawquf. Demain, Shabbat, ta'ala, vous saurez que ça veut dire le mawquf. Il a dit, c'est un compagnon qui a dit que. Il a demandé à son fils. Il a demandé à son fils qui avait fait le rousl, yani, en même temps djellaba et en même temps djumwa. Il lui a dit, tu as fait le rousl, pourquoi? Il a dit les deux. Il a dit, non, va faire un deuxième rousl pour la djumwa. Va faire un deuxième rousl pour la djumwa. Mais bien sûr, il y a des ulama qui disent, on fait le deux, on fait un seul. Maintenant, moi, je voudrais vous dire une chose. Naam, il y a beaucoup qui ont dit ça. Naam, naam, moi, j'ai bien cherché. Cette mes'ala, parce que peut-être que tu sais que ma thèse, yani quand j'ai fait le magistère, c'était spécialement sur le Jumu'ah, spécialement sur Rousl Jumu'ah, Salat Jumu'ah, tout ce qui a rapport avec Jumu'ah. Donc j'ai bien cherché à ce niveau, Inch'Allah ta'ala. Je voudrais te dire que maintenant c'est très facile. Maintenant il y a la douche, il y a l'eau qui coule, tu ouvres pas en haut, juste tu termines, tu dis Bismillah et tu laisses l'eau tomber une deuxième fois et tu sors. Yani le deuxième Rousl maintenant, tu peux le faire peut-être en moins d'une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu comptes à 30, tu as terminé. Parce que tu as fait le premier, le deuxième c'est juste tu fais tomber un peu d'eau sur toi, et tu masses un peu et tu sors. Allah ta'ala alam. Je voudrais maintenant moi vous poser une seconde question rapide. Tafaddal. Naam, j'ai entendu ça. Ça, il y a un hadith, je ne sais pas exactement si les chines Nasa'i à rahmatullah, jusqu'à ce que les émigrés vont impérer Moussoum. Naam, il y a un hadith qui dit cela, sah. Naam, il est sahih, mais je voudrais bien comprendre yani, ce qu'il veut dire avant de que je juge. Enfin, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup parler de ce hadith tant que je n'ai pas lu son sens et qu'on dit les ulama. Naam, adawa, comment doit-on le comprendre? Sah, comment doit-on le comprendre? C'est là le plus important. Car l'important, ce n'est pas ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup que qu'est-ce qu'il a voulu dire. Voilà la différence. C'est pas ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est pour ça que Allah azza wa jal, il a parlé de certains gens dans un contexte où yani, il était yani, il ne les a pas vanté leur mérite. Au contraire, il a parlé de certains gens, il a dit « Wa minhum man yastami' ilayk hatta idha kharaju min indik » قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. L'Azim l'a dit par certains gens, yani, les critiques, il a dit, il y a certains qui sont avec toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont avec toi, ensuite quand ils sortent de chez toi, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure. Ibn al-Qayyim a dit, parce que le vrai croyant ne dit pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il dit qu'est-ce qu'il a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la même chose ici, ce hadith il a dit comme tu as dit, mais c'est quoi son sens? Laisse-nous inshallah ta'ala ahtak, qu'on sache inshallah ta'ala le sens, on en reparlera inshallah ta'ala amplement. Sûrement il doit avoir des conditions ce hadith inshallah ta'ala. Dès que je le lirai inshallah, je te donnerai la réponse inshallah ta'ala. Puisque la sœur qui m'a posé la question sur l'obligation personnelle et de groupe, elle m'a fait rappeler maintenant quelque chose. Si ça va là, jazakallahu khair. Inch'Allah ta'ala. Sabhat an al-hadith, nan. En ce qui concerne l'obligation de groupe et l'obligation personnelle, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas souvenu un exemple très simple et très connu. Maintenant, je me suis souvenu, je vais le dire. Regardez, quand nous sommes par exemple 5 ou 6 assis, 5 ou 6, ensuite quelqu'un passe, nous dit salam alaikum wa rahmatullah. Nous, on doit répondre, pas, on est obligé de répondre. Est-ce que c'est une obligation personnelle, chacun de nous doit lui dire alaikum salam wa rahmatullah, ou bien c'est une obligation de groupe? Yani, si quelqu'un lui dit alaikum salam wa rahmatullah, ça nous suffit. Voilà la question. De la question soumise importante. Inch'Allah ta'ala, à chaque fois que quelqu'un me pose une question,
de nous se reconnaîtra
dans la main, forcément, il me répond est-ce que c'est G de groupe ou bien c'est P, c'est personnel. Si c'est personnel, ça veut dire tout le monde doit lui dire salam alaikum wa rahmatullah. Si c'est de groupe, un seul lui dit alaikum salam, ça suffit. Moumin 84, tafaddal. Moumin tafaddal, barakallahu fik. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'aurais préféré que les frères ils prennent le micro, comme ça c'est plus vite. Ma question portera sur le rosh. Tafaddal. Naam. Quand quelqu'un fait le rosh, il est obligé de faire l'istinchak et la madmada, surtout s'il n'a pas fait le petit wudu. Naam. Quand quelqu'un fait le rosh en se plongeant par exemple dans l'eau, il plonge dans la mer, par exemple, il est en état d'impureté, hein, sexuelle. Il plonge dans la mer, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, dire Bismillah. Et deuxièmement, quand il fait sortir sa tête de l'eau, il aspire de l'eau de son nez et de sa bouche. Au moins une fois, pour que son rosl soit véritable. Sinon, il a laissé quoi? Il a laissé un wajib, il a laissé une obligation. Car rentrer l'eau dans la bouche et dans le nez, c'est une obligation, et ce n'est pas une sunnah. Ce n'est pas yani une sunnah, c'est une obligation, inshallah ta'ala. Abu Ahmed, tafaddal, barakallahu fik. Naam, wa jazakallahu khayran anta aidan. Salam alaykoum. Non, de l'eau, peut-on par exemple laver une fois, deux, trois fois les mains, ou le contraire, ou doit-on laver chaque membre le même nom? Au tout début, vous avez parlé de la doua, de l'acte sexuel. Je voudrais savoir si l'homme et la femme doivent le dire. Tous les deux, expliquez-nous comment faire, barakallahu fikoum. Non, en ce qui concerne le wudu, bon, je vais dire qu'est-ce que tu as dit ici dans ta question. En ce qui concerne le wudu, peut-on par exemple laver le visage une fois et trois fois les mains, etc. Ou bien le contraire? Non, Cheikh Al-Albani, a authentifié certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des membres, certains membres, une fois, d'autres deux fois, d'autres trois fois. Donc il est permis tu fasses une fois par exemple la bouche et le nez, deux fois par exemple le visage, et trois fois par exemple les bras. Ensuite tu descends au pied, tu fais deux fois. Yani, tout est possible et sunna inshallah ta'ala. Et n'oubliez pas de vous dire que trois fois c'est la meilleure, bien sûr. Parce que trois fois, c'est plus parfait, bien sûr. C'est plus parfait. Mais si tu fais ceci une fois ou là, juste pour faire revivre la sunna, inshallah ta'ala, tu as ajra. Deuxièmement, vous avez parlé du doua de l'acte. Je voudrais savoir si l'homme et la femme doivent la dire tous les deux. Expliquez-nous comment faire basse l'opé. Le doua, c'est Allahumma jinnib na shaitan wa jinnib shaitan ma razaqtana. Allahumma jinnib na shaitan wa jinnib shaitan ma razaqtana. Ce doigt, on doit le dire, en principe, avant quoi? Lahda, j'ai su une chose ici. Hein. Lahda, j'ai su une chose. Mais il y a beaucoup, bien sûr, pas la peine d'écrire. Maintenant, il y a beaucoup qui n'ont pas l'arabe dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'arabe sur l'écran. Ça n'écrit pas en arabe. Alors que c'est très simple. Ça suffit d'avoir le Windows dans sa main. Il y a un fichier, tu vas cliquer, khlas, il te dit rentre-moi, fais rentrer le CD, tu rentres 30 secondes, il descend le fichier. Al-Muhim. Je disais, donc l'homme, donc avant de faire l'acte, on dit le doigt, Bismillah, Allahumma, jannibna shaytan, wa jannib shaytan mazakhana. Pour ceux qui ne connaissent pas le doigt, Bismillah, Allahumma, jannibna shaytan, wa jannib shaytan mazakhana. En français, ça donne à peu près, Bismillah, oh Allah, éloigne de nous le shaitan et éloigne de nous le shaitan de Nazartana de Inch'Allah Ta'ala ce que tu vas nous donner yani, comme enfant Nazartana Wallahu Ta'ala A'lam. Mais est-ce que les deux disent cela ou bien un seul dit? Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit seul l'homme dit. Il a dit pourquoi? Parce que quand on mange qui est-ce qui dit Bismillah? Celui qui mange. Il a dit, l'homme ici, c'est le mangeur. Et la femme, celle qui va être mangée. Donc c'est celui qui mange qui dit Bismillah. Quand tu manges la pomme, c'est pas la pomme qui dit Bismillah. C'est toi qui dis Bismillah et tu manges. Ici, c'est la même chose. Le mangeur dit Bismillah et la mangée, c'est pas la peine qu'elle fasse le doigt. Wallahu ta'ala, a'lam. C'est à qui le tour maintenant, Inch'Allah ta'ala. Ibn al-Islam, je ne sais pas c'est à qui le tour, c'est pourquoi je demande à mes frères de faire descendre le bas pour savoir à qui le tour. Ibn al-Islam, tafaddal.
Salam alaykoum wa rahmatullah. En fait, cheikh, j'ai deux questions. La première, c'est le ghusl du Jumu'ah. Est-ce qu'on fait le ghusl du Janaba ou juste on prend une douche? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par exemple, si dans ta famille, il n'y a personne qui a appris la science de Din, est-ce que ça devient obligatoire, par exemple? Si moi, j'ai la capacité de le faire, est-ce que ça devient obligatoire d'aller apprendre et apprendre à ma famille? Et deuxièmement, par exemple, si mes parents ne savent pas faire la prière et des choses comme ça correctement, de quoi on doit commencer, c'est-à-dire le primordial, les choses qui priment. Et jazakallahu khair. Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Le ghusl du Jumu'ah, c'est exactement comme le ghusl de la Janaba. Le ghusl du Jumu'ah, tu le fais exactement comme tu fais le ghusl de la Janaba. En ce qui concerne la deuxième question, quand quelqu'un, yani ceux qui sont des ignorants et ça, il a une capacité, comme tu dis, il est intelligent, il est obligé d'aller apprendre pour faire apprendre les gens, surtout sa famille. Comme on dit le Coran, فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Donc le Coran a dit, il exhorte les gens à ce qu'il y ait un groupe qui aille ailleurs apprendre pour venir apprendre les gens. Alors, c'est en ce qui concerne les gens normaux, les étrangers. Enfin, qu'en est-il si concerne la famille? Wallahu ta'ala alam. Troisièmement, s'ils ne savent pas la prière, etc., ils commencent par leur apprendre la prière. La prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est quelque chose qui est attaché avec l'heure. C'est une obligation mu'akkata. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit l'obligation, ça se divise en 4 ou 5 sortes. En ce sens, elle se divise, c'est une obligation qui est attachée avec l'heure, yani le temps. C'est pas comme par exemple les parents, on doit les obéir. Ça n'a pas d'heure. Tu obéis quand il y a quelque chose à faire, tu obéis. Mais la salat, tu as un temps. Il ne peut pas faire la salat, ni avant ni après. Donc c'est une obligation attachée avec le temps. Donc, tu lui apprends la salat, et en même temps tu es en train de lui apprendre la salat, comment il va la faire, etc. Parce qu'il la fait 7 fois par jour. Ensuite, bien sûr, في وقتها. صلاة واجب مؤقت، صلاة واجب مؤقت، لأن فيها الواجب المطلق والواجب المؤقت. المؤقت celui qui doit se faire à l'heure. Il y a des obligations qui n'ont pas d'heure. Par exemple, aider les gens, etc. Tout ça, c'est des wajibat, mais elles n'ont pas d'heure. Et ensuite, bien sûr, tu lui apprends la aqidah. Tu commences par la aqidah. C'est la première primordiale des choses. La première chose primordiale, c'est quoi? C'est de lui apprendre la aqidah. De leur parler un peu. Et ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, surtout s'ils sont, ils n'ont pas un bon niveau, c'est pas la peine de leur commencer, par exemple, avec les actes, les attributs. Alors tu le laisses pour un niveau assez bon, car tu vas lui dire que l'agent a des mains, etc. Ça va l'embrouiller. Commence, Inch'Allah Ta'ala, ils ne savent pas lire. Chef, commence par leur parler, qu'est-ce qu'il y a dans le paradis, qu'est-ce qu'il y a quand on rencontre Allah, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe. Pour ceux qui ne font pas la prière à l'heure, etc. Hatta yani, ils apprennent c'est la rôle. Si tu vois que le niveau est un peu monté, tu leur parles que l'Azawajal, il a des noms, il a des attributs, il ne faut pas le ressembler à nous, etc. Et ainsi de suite. Wallahu ta'ala, a'lam. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu le kitab en français. L'Aqida al-Tahawiyya, je ne sais pas. Si tabarakallah. S'il y a l'Aqida al-Tahawiyya, s'il y a quelqu'un qui peut nous procurer l'Aqida, loi CTIA, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam Taymiyyah, traduite, expliquée par Cheikh Ibn Uthaymin. S'il y a quelqu'un qui peut nous procurer ce livre, Inch'Allah Ta'ala. Naam, Jazakallahu Khair, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ja'alana Nuhassil Alayya. Je ne sais pas si t'as qui le tour maintenant, je ne sais pas si t'as qui le tour, où je me suis arrêté, je ne sais pas. Lorsque je me suis arrêté, c'est pour ça que je vous ai dit que Inch'Allah Ta'ala de baisser les bras pour que je sache où je me suis arrêté. Frère ça, est-ce qu'il a posé la question? Il doit pas. Salam alaikum. Il y a un frère qui veut une nasiha concernant cette situation. Le frère souhaite se marier, il est divorcé, il souhaite faire la hijra en Algérie, mais c'est en France, il a du mal à se marier, frère, il souhaite pas se marier à la mairie. Et il est polygame. Et lors de son muqabala, les parents et la fille ne veulent pas. Quel conseil lui donnes-tu de se marier au bled ou prendre une sœur d'ici pour faire du khair? Allahu alam. Naam. Ceux qui ont pu. Naam. Wallahi, il fait la salat istikhara. Il fait la salat istikhara. Il peut prendre une femme ici et elle peut être mille fois mieux que celle qui est au bled. Il peut se marier avec une femme au bled qui peut être mille fois mieux que celle qui sait. C'est pour ça que c'est très difficile et ça dépend avec qui il va tomber. Il y a deux préférences. S'ils sont par exemple avec une femme ici, ou une fille qui est talibat ilm mais qui aime, du moins si elle n'est pas talibat ilm, elle aime le ilm, elle n'est pas contre. Voilà la différence. Il y a qui ne sont pas talibat ilm, des filles ou des femmes et qui n'aiment pas le ilm. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc s'ils trouvent une qui parle de ilm ou bien qui aime le ilm, elle aime parler du ilm, elle aime aller apprendre des choses et qu'il apprend avec elle. Yani, il a frappé d'un caillou deux oiseaux. Il s'est marié, trois oiseaux. Il s'est marié, il a fait la hijra et elle a fait la hijra avec lui. Donc s'il a une fille entre ses yeux, il fait la istikhara inshallah ta'ala wa yatawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. French Paris, tafadhal. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Je ne sais pas, Mimo 027, s'il a parlé ou là, je l'ai sauté. Mimo 027, Mimo, afwan. Je ne sais pas si je t'ai oublié, pardonne-moi. Il n'a pas parlé, hein. D'accord. Alors avant de répondre à French Paris, je donne à Mimo 027, tafadhal. C'est pas ta faute, French Paris, c'est de ma faute, barakatuh, c'est pas ta faute. Tafadhal, Mimo 027. Alors je profite le temps qu'il est en train d'écrire. Salam alaikum wa rahmatullah. Ma question est la plus suivante. Akhi French Paris, essaye jazakallahu khairan faqata. Yani fais le tour, mashallah ta'ala, d'écrire la prochaine fois un peu plus grand. Faqat, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Peut-être qu'un jour je vous enverrai ce qu'a écrit dans ce rigueur quand elle m'a envoyé son devoir. Astaghfirullah, tu voulais. Selon le Sahih, combien de temps puis-je ou dois-je raccourcir ma prière pendant le voyage? Et aussi, à quel moment le titre de voyageur m'est-il accordé? Barakallahu fik. Naam, mon frère French Paris, quand tu es en voyage, tu fais la salat raccourcie jusqu'à ce que tu reviennes à la maison. Quand tu es en voyage, fais la raccourcie jusqu'à, Inch'Allah ta'ala, ce que tu reviennes à ta maison. Et le voyage commence à partir du moment où tu sors de ta ville. Naam, ou même un an, même 2 ans. Comme l'a fait Anas ibn Malik, il l'a fait 2 ans. Et Abdullah ibn Samura, il l'a fait 2 ans. Et Msruq, il l'a fait 2 ans raccourcis. Tout ça, c'est des hadiths authentiques. Et Abdullah ibn Omar l'a fait 6 mois. 6 mois raccourcis. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, sauf raccourci. Il n'a jamais fait une prière longue, normale, quand il était en voyage. Donc, je reviens, je veux dire, et tu commences à raccourcir quand tu sors de la ville. Par exemple, moi quand j'habite à Alger, il faut que chaque ville a un début ou une fin. Alger, par exemple, de l'autre côté, c'est Bir Khadem. Tu sors de Bir Khadem, tu n'es plus à Alger. De l'autre côté, par exemple, tu sors, par exemple, de la pointe Pescade. De l'autre côté, ici, par exemple, tu sors de Indaya ou là. Et c'est comme ça. Quand tu sors de ta ville, si tu es dans une ville, tu vois la plaque, on n'est plus dans cette ville, tu commences à faire la prière raccourcie, Inch'Allah Azza wa Jal. Akhimimu, où est-il? Akhimimu, où est ta question? Naam, aussi pour aller voyager, pardon, pour aller travailler, si quelqu'un va dans un pays pour se dire je ne vais plus revenir à ce pays, il doit la faire normal. Mais s'il va dans un pays, il va se dire je ne sais pas quand cette chose va se terminer, je vais revenir dans mon pays. Il ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Il la fait courte. Et quand il va dans un pays, il sait que c'est pour, par exemple, terminer une chose ou là, des études ou là, ou la travailler, ça, il y a une diversion, il y en a entre les ulama. Cheikh Ibn Uthaymin et Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Cheikh Saadi, Adam Rahmatullah, on dit il peut, même dans ce cas, lorsqu'il sait qu'il va rester tant d'années, il peut, Inch'Allah ta'ala. Mais quand tu es là-bas, je veux quelque chose de très important, quand tu es dans le pays là-bas, quelque chose de très important, quand tu es devant une mosquée où tu entends la prière, tu entends l'appel, tu dois aller à la prière. Même quand on est en voyage, on entend l'appel du muezzin, naam, on doit aller aussi à la prière du vendredi. Wallahu ta'ala alam. Abdul Ghani tafaddal barakallahu fik. Assalamu alaikum. Est-ce ce livre est bon? Kitab al-waraqat fi usul fiqh. Jouini. Naam, ce livre est très bon, surtout si tu lis ceux qui l'ont expliqué. Comme il y a quelqu'un qui s'appelle Abdullah Fouzan, il est très connu, Abdullah Fouzan, celui-là, il a expliqué ce livre. Ça, il a expliqué ce livre et il est très important, Inch'Allah ta'ala.
Salam alaikum wa rahmatullah. Cher, j'ai une question à vous poser au sujet d'un hadith, je voulais savoir s'il était authentique, Inch'Allah. C'est au sujet d'une femme qui... C'est pas le hadith, il y a une femme qui m'a dit que... c'est-à-dire qu'elle a perdu son mari, elle a donc 2 enfants qui sont orphelins, et elle s'est remariée et elle pense qu'elle aurait pas dû, et que parce que elle cite un hadith du prophète Mohammed qui dit que une femme qui a perdu son mari, et qui les élève sans se remarier, elle sera aussi près que du prophète Mohammed que ses 2 doigts. Je veux savoir si vous connaissez ce hadith. Barakallahu fik.
Abdul Ghani, barakallahu fik, reprends l'akhor, reprends, j'ai pas bien entendu. Reprends Abdul Ghani, jazakallahu khairan, pour que j'écoute bien. Reprends jazakallahu khairan.
Salam alaikum, vous m'entendez? Donc, c'est une femme qui a perdu son mari, qui a tué son âme, et elle s'est remariée. Et elle a 2 enfants en bas âge. et elle dit souvent à son mari qu'elle regrette, et elle prend comme position le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme qui ne se remarie pas et qui élève ses deux enfants toute seule, elle sera aussi proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ses deux doigts, comme les deux doigts de sa main. Et elle dit qu'elle ne peut pas donner de l'affection à son mari parce qu'elle n'arrive pas à gérer les deux, donner l'affection à son mari et à ses enfants. Elle n'arrive pas à gérer les deux. Vous m'avez compris? Elle n'arrive pas à faire les deux en même temps. Pour elle, c'est impossible. Elle a l'impression qu'elle fait une injustice envers ses enfants quand elle donne de l'affection à son mari et inversement. Voilà, là aussi. Est-ce que je peux enregistrer votre réponse pour lui transmettre une charge?
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que tu es prêt pour l'enregistrement? Si tu es prêt, dis-moi un barak là, en fait. Naam. C'est Abdelrani, naam. Salam alaikum mes frères et mes soeurs. Premièrement, Allah Azza wa Jalla d'être compréhensible de ce que le Cheikh allait se reposer, inshallah ta'ala. Ça fait trop de bruit qui fait le coup, comme ça toujours. Non, inshallah ta'ala, je vais arrêter chez cette question, inshallah ta'ala. Demain, inshallah ta'ala, on va faire le cours du hadith. Vous terminerez, inshallah ta'ala, vos questions. Et inshallah, on va faire un jour spécialement pour les questions, inshallah ta'ala. 2h20, 2h20, j'ai pas compris. Yes, ça fait 2h20, pas 3h20. Muslim Kola, quand on a commencé le dos, il était 11h du soir ici, 11h du soir chez moi. Maintenant chez moi, il est 2h20. Compte, 11h jusqu'à minuit, ça fait 1h. Ensuite 1h du matin, ensuite 2h du matin, ensuite 2h20. Donc ça fait 3h20, Inch'Allah Ta'ala. On arrête Inch'Allah maintenant. Je réponds à mon frère qui avait demandé la question. Akhi Abdelrani, dis-moi la deuxième fois si tu m'entends maintenant pour te répondre, Inch'Allah Ta'ala. Et Inch'Allah Ta'ala, on arrête, Inch'Allah Ta'ala. Non. Chouf, bismillahirrahmanirrahim, salat salam ala ashraf al-mursalin. Il n'y a aucun hadith qui dit que yani la femme ne doit pas se marier, mais garder ses enfants. Non, garder ses enfants jusqu'à ce qu'elle me rencontre et le hadith des deux doigts, etc. Le hadith sahih, le hadith est vrai, mais il ne parle pas, il dit pas que la femme ne doit pas se marier. Il dit que quiconque, ça veut dire même un homme, quiconque, va yani garder des orphelins chez lui, va les élever, etc., il sera proche de moi comme les deux doigts, il a fait comme les deux doigts. Mais le hadith n'a jamais dit qu'elle n'a pas le droit de se marier. Elle n'a jamais dit cela. Ça n'a rien à voir avec se marier ou ne pas se remarier. Il parle de quiconque, toute personne qui peut venir, faire venir chez elle un orphelin, et ou les deux, il est laissé jusqu'à yani, grandir, etc. Ils seront yani, près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle a dit, la femme a dit notre soeur. Les questions de mariage, elle s'est mariée, alhamdoulilah. Au contraire, yani, si elle est jeune, pourquoi va-t-elle se priver de son mari? Qu'elle va-t-elle se priver yani, de beaucoup de choses? Mais en ce qui concerne l'affection yani, jointe entre les deux, en principe, yani, on essaye d'être au maximum de faire yani, le wajib. On essaye au maximum de faire le wajib. Parce que pourquoi? Parce que sinon on va rentrer dans les problèmes. On va rentrer dans les problèmes. C'est pour ça que des fois quand on n'aime pas quelqu'un ou là, ensuite on ne va pas lui obéir. Et ensuite quand on ne va pas lui obéir, on va rentrer dans les péchés, dans les grands péchés. Pour ne pas obéir à la femme, surtout à l'épouse, l'épouse à l'époux, surtout si la demande pour les rapports, etc. Elle ne va pas accepter et elle va rentrer, elle va s'ouvrir une très grande porte. Très grande porte. C'est pour cela que je lui conseille, moi, si elle peut patienter, Inch'Allah ta'ala, qu'elle patiente, si elle s'excite impossible, celle-là, elle peut à l'amiable demander la séparation, faire venir ses parents et ses parents à eux, et dire voilà, je préfère y aller, je peux plus, je préfère terminer ma vie seule ou là, si vraiment elle a, comme je viens de dire, des raisons et que yani, elle sent que c'est impossible de rester avec lui. Et maintenant, si pour la moindre des choses, yani, les femmes vont chercher à se séparer, ça, comme vous devez savoir, ce n'est pas bien dans la charia. Dans la charia, plus l'homme reste avec son épouse, plus la zawil aime cela. Pourquoi? Parce que c'est le shaitan qui essaye de disperser entre l'homme et la femme. Il faudrait qu'on ait bien mar et aux. Toute personne qui essaye de séparer entre l'époux et l'épouse, ça veut dire qu'il ressemble au shaitan ou bien c'est un shaitan. Et toute personne qui essaye de les unifier, il a un grand ajrain de Allah. Mais il y a des cas où quelqu'un ne peut plus, ça c'est autre chose. Comme a fait Maryam al-Mughaliya dans un hadith sahih, dans un autre hadith sahih, elle s'appelle Jamila bint Ubay. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: la a'tub ala malik dinan wala khuluqan. Moi, je ne me plains pas de mon mari, ni de sa religion, ni de son comportement. Il a une bonne religion, un bon comportement, mais akra al-kufr fil islam, mais j'ai peur yani, en islam d'avoir des péchés, etc. parce que je ne peux pas lui obéir. Pourquoi je ne peux pas lui obéir? Parce que je ne l'aime pas. Dans un autre hadith, il est très moche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu peux lui rendre la dot? Elle a dit: je rends la dot. Elle lui a rendu la dot, c'était un jardin, et ils se sont séparés. Ça s'appelle le khula, c'est pas le mariage. Un khula, ça annule seulement. Ça annule, et ce n'est pas un divorce. Ça annule, et ils ont annulé leur mariage. Allah Azza wa Jal, Abu Habibaki, il a Zawjik, wa an yuhabibahu ilik, wa an yuhabibana jami'an ila Azwajina. Et on dit, comme a dit le Coran, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun. Le Coran, qu'est-ce qu'il a dit dans le dua? C'est un dua dans le Coran. Qu'est-ce qu'on dit? Rabbana, ou Allah, hablana min azwajina, donne-nous de nos femmes. Min azwajina wa awladina, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina, et nos enfants, qurrata ayun. Yani, de façon à ce qu'il soit, yani, la meilleure des choses entre nos yeux. On dit en arabe, cette chose, c'est qurratu ayni. Mon enfant, c'est qurratu ayni. Donc il dit, ma femme, c'est qurratu ayni. Donc en islam, l'homme demande à ce que Allah Azza wa Jal qu'il fasse que sa femme et ses enfants soient qurratu ayni. Et la femme, quand elle fait le doigt, elle demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que son mari et ses enfants soient qurratu ayni. Si Allah Azza wa Jal exauce ce doigt, comme ça la personne, l'homme n'a plus envie d'aucune femme dans le monde. Il a envie seulement de sa femme. Et la femme ne cherche jamais un autre homme. Elle cherche seulement son mari. Inch'Allah Azza wa Jalla yajma'a bayna qulubina wa an yu'allifa bayna qulubina wa bayna ahlina jami'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Le cours inch'Allah demain à 11h, c'est-à-dire à 22h européenne. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.